Radiostuhl. Radiostuhl.
Bonne année, bonne saison. Bienvenue, le Radio Schtroumpf, deuxième épisode. Épisode de mois d'août, épisode caniculaire. Il fait 45 degrés dans le studio. Ce n'a pas empêché Rachma de venir en vélo.
Bonsoir les amis.
Dator venir dans la limousine qu'il utilise pour aller chercher les joueurs.
Payé par le club avec les commissions. Bonjour, bonsoir.
Kito, lui, est venu.
Je suis venu en voiture et j'ai grillé un petit feu.
Par la vidéo, je l'imagine.
Voilà, bonjour à Murphy, à Murphy.
Bonjour à Murphy. Et Calcio 90, lui, est venu à pied.
À pied, voilà, parce que tout le monde venait en voiture, en vélo, donc j'ai choisi de venir à pied.
Voilà, donc l'équipe habituelle 4-4-2, prêt à attaquer ce début de saison avec beaucoup de choses. On va parler du championnat, on va parler de l'Europe, on va parler du mercato, on va parler des sujets qui fâchent, on va parler des sujets qui fâchent encore plus. C'est enculé. Tout de suite parti avec le début de saison. C'est vrai que d'habitude, il y a JB Darki qui est enculé.
Mais on peut plus.
Ouais, JB Darki, il est
Marlène Schiappa va arrêter d'écouter si on le dit.
Voilà. Donc le début de saison, j'avais noté un début de saison calamiteux. Qu'en pensez-vous
En championnat.
Alors au début, on est sur le championnat.
Parlons du championnat.
Parlons du championnat. On était très clair dessus.
Tout à fait. Et ben on a pris 2 points en 3 matchs. Donc on a 1 point d'avance sur la zone rouge. C'est calamiteux.
Loré en début de saison aurait dit. Parole rapportée aurait dit sous interprétation. Selon certains, on joue plus le maintien, c'est plus pour nous. Nous, on vise autre chose. Donc voilà, on est dans les clous. On n'est pas concerné par le maintien, donc c'est normal.
Voilà, je cite tout de suite bien. Un Stubiste. Je vous couperai de multiples fois pour citer les Stubistes. Travis Baker sur le Stub qui nous dit 0 victoire après 3 matchs de championnat. Le Racing fonce-t-il vers la Ligue 2 ?
Alors, je l'ai pas vu celui-là.
Alors il y a une analogie qu'on avait déjà faite, il me semble, au dernier Radio Stubb, c'est avec la saison 2005-2006, donc l'après coupe de la Ligue.
Ça fait 6 mois qu'on le fait.
On le fait même de la coupe. C'est ça. Et c'est vrai qu'on a connu un départ quand même assez difficile en championnat, alors que mine de rien, le calendrier était plutôt favorable.
Il y a aussi eu un arbitre enculé comme contre Monaco à l'époque.
Oui, mais il y avait 2 buts refusés à l'époque avec Corinne Lagrange qui était arbitre de touche.
Double polémique.
Mais d'ailleurs je coupe. Hein. Oui. Fabus 67 dit les similitudes avec la saison 2005-2006 sont pour le moment flagrantes. Peut-on imaginer un coup d'État cet hiver pour renverser Marco?
Ça veut dire que l'ennemi est déjà à l'intérieur.
Déjà, est-ce qu'il y a un adjoint qui pourrait prendre sa place?
Enfin, Pierre Schmitt.
Le boucher de je ne sais plus quel village.
De Bayerside. Ou bien un outsider à la Afflelou.
Bon, après, si on prend dans les 3 matchs de championnat séparément, il y a quand même des éléments un peu différents. Enfin, on peut commencer par Metz, où on joue, mine de rien, ça reste un promu, même si c'est le derby. On fait une première mi-temps plutôt correcte, et après, en deuxième mi-temps, on s'effondre totalement.
Alors, c'est en début de deuxième mi-temps où il y a une sorte de d'effet psychologique ah merde, il pleut. ah ben on prend un but et voilà, et là c'est la fin du monde.
Mais on a même failli perdre le match, hein. Enfin en fin de match on est tout proche du 2-1
poteau là. Bon,
oui, c'est ça. Mais globalement on a du mal dans tous les débuts de deuxième mi-temps, hein, que ce soit en Coupe d'Europe, jeudi
contre
Francfort.
Ils font des signes qui ne trompent pas.
Voilà. Non mais Tipeee,
est-ce que vous pensez que c'est un effondrement qui était physique parce que Coupe d'Europe, ou alors que là c'était ça n'a rien à voir?
C'est plus mental que physique, j'ai l'impression. Enfin, le début de deuxième mi-temps, c'est tu rentres pas dans le match tout de suite. Alors qu'en face, ses adversaires, eux, ils voulaient égaliser le plus vite possible. Et on s'est fait piéger comme ça. Contre Metz,
non, mais c'est côté de concentration, mauvais alignement, mauvaise communication, perte de balle qui aurait pu rester anodine et qui finalement était très, très maladroite de Bellegarde. Donc, il n'était pas aidé et l'action avance, c'était le jeu de la merde. Puis Martin a tenté de faire une main volontaire pour arrêter l'action, s'il n'a pas réussi. Enfin, bref, c'était un enchaînement de merde.
Ça donnait
un but de Metz, donc c'est parfaitement normal comme scénario.
Après, Metz, c'est un peu C'est le match, ouais, le typique Strasbourg-Metz où on n'arrive pas à battre une équipe qui est relativement faible par ailleurs. C'est un peu notre bête noire.
Bah, on n'arrive pas à battre Metz, tout simplement. Voilà. On gagne pas souvent contre
on n'arrive pas à inquiéter Okidja.
Donc c'était pas. C'était
après, jouer un promu en début de saison, c'est pas forcément un cadeau. Hein. Le promu surfe un peu sur la fin de saison passée, pour la saison passée. Après, effectivement, très surpris des sorties d'Okidja qui a fait des.
Il a fait son match
en sobriété.
Qui a fait son match, qui était. Qui s'est bien fait siffler, hein, à juste titre pour ma part. Ce sera un autre débat plus tard.
Des banderoles injurieuses pour Okidja aussi, hein, ouais. Ce qu'on a lu sur le Shtoub.
Ouais, on ne pourra pas dire ici. Hein. Pas, moi, je n'avais pas tout lu en vrai.
Voilà, ou qui salope, hein, on ne pourra pas dire à la radio. Et tout.
Entre guillemets.
Entre guillemets.
Bon, si, citation.
Citation.
Moi, je trouve que ce n'est pas mérité, mais bon, c'est pas grave.
Pour Okidja.
Ouais, ouais.
Il s'est battu pour notre club.
C'est le Racing qui ne le voulait plus.
Ouais. Ce qui était mérité, c'était les sifflets pour son interminable lenteur à dégager à la fin du match.
Ouais, mais ça,
il faisait chez nous, on était très, très contents.
Hein. Non, moi, j'étais pas content déjà à l'époque, mais bon, donc, je m'en arrangeais, mais j'étais sûr que le jour où il reviendrait, ça m'énerverait, parce que ça m'énervait déjà à moitié avant. Mais non, après, c'était une frange.
C'était rien comparé au gardien du Maccabi. Hein. Qui, alors lui, dès la 30e seconde, gagnait du temps déjà. Hein.
Après, oui, le match de Metz, finalement, c'est vraiment deux points de perdu parce que c'est, au vu du calendrier, forcément l'enchaînement avec les matchs européens, tu dis qu'il vaut mieux éviter de prendre trop de retard en début de saison. Et là, t'as un promu qui est quand même abordable. Enfin, l'effectif de Metz, il fait pas rêver. Le meilleur de jeu, c'est Renaud Coate qui a plus de 35 ans. Normalement, c'est 3 points assurés à domicile. Et là, on s'est pris un peu les pieds dans le tapis. On n'a pas joué en deuxième mi-temps.
Mais on a complètement déjoué en deuxième mi-temps. Ouais. En première mi-temps, d'ailleurs sans l'arbitrage, sans la VAR, sans je ne sais quoi, Liénard, et contrairement à jeudi contre Francfort, marqué son but. Finalement, on se retrouve à.
Mais il fallait le tuer en première mi-temps.
Ouais, c'est ça. Mmh.
Ouais, le vrai problème, c'est le match de Metz, parce que finalement, dans une saison, tu fais nul à Reims et tu perds après contre Rennes, contre un Rennes en pleine bourre, c'est pas infamant. Mmh.
Reims nul sans jouer en plus, ce qui n'est pas vraiment
bien. Aller faire un nul dégueu, on a fait des.
Reims n'a pas joué non plus.
Ouais, mais ça c'est leur problème alors, parce qu'eux ils jouent pas la Coupe d'Europe.
Non, mais eux ils sont mauvais, le Racing a le droit d'être mauvais aussi. Oui. Et tous les deux sont parfaitement contents d'avoir un point.
Non, mais nous c'était vraiment assumé.
Oui, nous, c'était
on a fait, assumé. On a fait le dos rond, on a verrouillé.
Sans transition.
Olivier Rouillet d'ailleurs.
Olivier Rouillet, on s'en salue. Mais on a.
Mais c'est un peu dans la lignée de la saison dernière, hein, où à Amiens on jouait pas, à Caen on jouait pas, à Dijon on cherchait 0-0 ou 1 partout.
Mais historiquement, c'est quand même assez rare de voir un Racing capable de faire le dos rond à l'extérieur et de pas prendre de but. Enfin, aller chercher un 0-0 à l'extérieur, on le faisait rarement à une époque. Maintenant, on arrive.
Mais c'est vrai que c'est voulu, c'est l'oreille qui dit bon, écoutez les gars, ce soir, on met le tocard, et puis ce sera pas flamboyant, mais on.
Je pense
alors c'est les joueurs qui se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas et que du coup c'est un peu subi. Du coup, allez, ben, tant pis.
C'est Loré qui a conscience des faiblesses actuelles de l'équipe et qui dit dans ces circonstances on va fermer. Et peut-être que sur un coup ou deux, on aura peut-être une chance de marquer. On a failli le faire à Reims. Hein. Djikou a deux grosses occasions. On a failli faire le hold-up parfait, mais
c'est un choix assumé.
Martinez les a remises.
Ouais.
C'est un choix assumé, mais qui est le choix de beaucoup de clubs de D1 à l'extérieur. En se disant on y va prudemment et sur un coup on va peut-être marquer par effraction, par hasard, et après on va encore bétonner davantage. Ça fait qu'il y a certains matchs de D1 de samedi soir qui sont souvent nuls en
général. Juste une parenthèse, parce que je pense qu'on va en parler après dans un Loré d'émission, mais ça, il y a quand même un changement de paradigme un peu chez Loré. Avant, en Ligue 2 ou même en première saison de Ligue 1, c'était un entraîneur qui était plutôt réputé pour faire jouer ses équipes, pour. Il disait lui-même, je préfère mettre un but de plus que l'adversaire que de me contenter de 1-0. Maintenant, de plus en plus, ça devient un entraîneur type René Girard, Rune Katef. On est solide, on ne prend pas de but et sur un peu un coup de chance, on va marquer.
Et qu'avez-vous pensé de son pragmatisme dimanche après-midi? Quand il sent que le match est assez tôt dans le match, et il laisse tomber le match finalement.
Oui, non, mais moi c'est parfaitement aussi adapté.
Parce que je trouve ça bien finalement, mais je pense que ça a dû agacer beaucoup de gens à la Méno. Et je me suis dit, bah, en fait, il a raison, il y a 2-0, on va jamais revenir de toute façon.
On a aucune chance de revenir.
Donc, bah, allez, je fais rentrer, je donne du temps de jeu à des.
On lance les jeunes, c'est le Ça, c'est aussi après, un gros cliché du
certains Jurassic. Certains étaient contents.
Il faut mettre les jeunes. En fait, les gens qui disent ça, ils étaient contents parce que les jeunes sont rentrés. Mais après, ils sont quand même cibles, partis à la 80e parce que c'était nul.
Mais disons qu'en plus, ils les lancent assez tôt, hein, finalement. Parce que Rennes, je ne vais pas dire qu'ils doutaient, mais on sentait que si tu réduis le score,
c'est plus le deuxième but. Il finit le match.
Oui.
Bah bon, à 2-0, c'était fini et c'est là qu'ils sont rentrés.
Ouais, bah après.
Et bon, même un but du 2-1, ça aurait. Enfin, je sais pas. De toute façon, on était tellement loin d'en mettre. Hein.
Bah, oui, on a failli égaliser quand même. Martin a fait le penalty.
Oui, mais là, à l'époque, il n'y avait pas encore les jeunes sur le terrain, mais c'était. Oui, il y avait encore Endur sur le terrain.
mais le match, est-ce que. Si Martin égalise sur penalty, est-ce que le match change vraiment ou est-ce que Rennes était tellement au-dessus et nous tellement en dessous physiquement
On aurait pu reprendre le momentum à la fin de la première mi-temps, mais après c'est pas une garantie de le tenir jusqu'à la deuxième mi-temps. Donc
donc quoi qu'il arrive,
Rennes qui était vraiment pépère, qui a gagné tranquille, qui n'a rien montré mais qui a géré. Mais qui aurait peut-être eu encore les moyens de reprendre l'avantage.
Pourtant, ils étaient quand même assez nerveux.
Il a sorti deux mecs à la mi-temps. Mawasa, parce qu'il a
failli,
il a découpé Simacan. Et l'autre, Del Castillo, parce qu'il était par terre tout le temps. Il râlait, il aurait aussi pu mettre une savate à quelqu'un. Donc. C'était assez intelligent de l'entraîneur René aussi.
Après, on a bien perdre contre Rennes, c'est pas infâme en tout cas.
Ça ne l'est plus. L'année dernière, on avait fait deux victoires contre Rennes.
Non, on a perdu au retour à 37e journée.
Ah merde, c'est vrai, c'était l'année d'avant.
On a gagné là-bas.
Oui, on a gagné là-bas.
4-1.
4-1.
L'année d'avant, on perd là-bas avec Okidja qui fait du.
Ah oui, Bakary Koné qui est magistral.
Donc en fait, il faut absolument qu'on gagne au retour là cette année.
Comme l'an dernier.
Comme l'an dernier.
Et qu'on reprenne Gaët Saucisse.
Voilà, mais chaude, c'est
possible. Oui.
Alors il y a des choubis, je cite un peu, là c'est vrai qu'on est allé tellement vite et tellement de façon pointue dans l'analyse qu'on a oublié de poser la question de 67, que je ne connaissais pas, qui dit aussi qu'on est toujours nul en deuxième mi-temps et qui se demandait s'il y avait une explication.
Après c'est
qu'on est nul, tout court.
Voilà, non mais on parlait du mental contre Metz, mais au fil du temps, enfin contre Rennes, c'est aussi physique, hein. Même si Loré fait beaucoup tourner son effectif en ce moment, t'enchaînes des matchs tous les 3 jours depuis quasiment le 25 juillet. Donc c'est pas évident non plus avec un groupe finalement restreint en qualité. Enfin les titulaires, des vrais titulaires de Ligue 1, t'en as pas 25, hein. T'en as peut-être 15-16.
Je suis pas non plus convaincu que le système de Loré, le 3-5-2, le 5-3-2... fonctionne encore. Moi, ça fait 6-7 mois qu'il s'essouffle.
Alors, mais du coup, contre Reims et contre Rennes, par moment, on a changé ça.
Et globalement, ça jouait mieux. Oui. Moi, je trouvais. Bon, après le match, tu me diras, voilà, quand t'es mené 2-0 contre Rennes dimanche, forcément, c'est toi qui as la possession, c'est toi qui joues, c'est toi qui pousses. Mais contre Reims, quand on est passé. À Reims, quand on est passé en 4-4-2, on était bien meilleur, j'ai trouvé.
D'ailleurs, super doux. Demandait s'il fallait repasser à deux défenseurs centraux.
Alors moi je suis pour totalement.
Mais effectivement. Alors tu laisses qui sur le. Tu sors qui des trois?
Avec un match de 3 jours, tu alternes.
D'accord. Donc tu fais tourner Mitrovic, comme ça a été le cas d'ailleurs.
Alors Mitrovic c'est un peu à part parce qu'il a un rôle au-delà du sportif, tu sens vraiment le guerrier. Là contre Francfort, tu sens vraiment le mec qui a de l'autorité sur ses partenaires, qui. Ça va bien au-delà simplement du défenseur. C'est vraiment le capitaine.
C'est un général qui motive ses troupes et tout ça, qui est aimé par ses. Voilà, parce qu'il donne un petit déjeuner à ses soldats, tout ça, comme Pétain à l'époque. Et.
ça dérape.
Pourquoi non, mais non, parce que c'est ça, le Pétain de l'époque 14.
Ah, donc, d'accord.
Ça mais en fait, le mec qui fait fusiller les
déserteurs. Non, mais Mitrovic, il est bien dans la théorie, dans la motivation, mais un peu dans la pratique, c'est.
Mais je suis...
Bon, quand on le voit se faire une feinte du japonais là à Francfort où il perd ses chevilles, c'est. Disons, ça se voit à 10 km qu'il va se faire prendre comme un bleu dans la surface.
Mais du coup, si tu joues à.
Mais il est très bien pour placer tout ça, pour dire toi fais ça, fais ci. Mais moi, bon.
Il engueule
attention,
bien.
Attention, ouais, il est bien pour gueuler sur.
Ouais, mais avant de venir chez nous, il jouait dans un système à deux défenseurs, et à deux défenseurs centraux et ça marchait très bien.
Du coup, tu verras jamais s'il va quand dans l'axe, quoi.
Bah. Après, c'est.
Là, il a joué 6 l'autre jour. Hein.
C'est la première fois qu'il jouait 6. Hein. Il a joué deux matchs 6. Mais on peut jouer, mettons, avec Djikou et Mitrovic dans l'axe. Lamine Koné sur le banc et il joue les matchs. Non, mais c'est.
Koné a quand même un sérieux problème sur les relances. Hein. Quand il est balle au pied, franchement.
Bah, des fois, il fait des montées à la CK aussi.
C'est compliqué hein, quand il est balle au pied, hein, franchement. Je veux dire, même Donzelot était plus à l'aise, balle au pied. Attention.
Il y a Benzouz aussi hein, qui nous demande si la montée en puissance de Simakan est-il le nouveau taulier de la défense. Un petit peu parler de la révélation, parce que c'est un peu le seul joueur qui donne le sourire en ce début de saison.
Attends, vous nous parle de Simakan depuis longtemps.
Bah oui, vous hein, l'avez entendu en premier sur Radio Stoub.
Ça fait plus d'un an.
Mais là, j'ai l'impression que du coup, il est trafiqué.
Il dépanne en ce moment, oui.
Il dépanne, tiens, tu vas jouer latéral. Il a joué 6 du coup pendant une demi-heure.
Par exemple, avec la réserve, il a joué une fois 6. Il était entré en jeu à Vauban. Il n'avait jamais joué milieu défensif. Donc là, c'est vraiment tout nouveau pour lui et il s'en sort très bien.
Hein. Oui, c'est ça. Ouais.
Bon, faut voir s'il tient la saison, parce que s'il se fait découper à chaque match.
Il sera pas titulaire tout le temps.
Justement, s'il se fait découper, il sera même sur le flanc un petit moment. Hein.
Ça reste une alternative très crédible, que ce soit en poste de défenseur central ou en tant qu'arrière droit. Sachant qu'en plus, on a encore Anthony Cassis qui va finir par revenir. Donc, même si on reste à 3, mais si on passe à 4, on a largement de pouvoir venir pour jouer sur deux tableaux. Donc là-dessus, sur la défense, moi, j'ai pas forcément d'inquiétude.
J'ai deux questions. Alors, une, c'est de...
Comme le standard est saturé.
Ouais, non, mais alors, il y a eu des milliers de questions. Je sais pas si les Stoubis sont en vacances, je pense, c'est pour ça. On disait que c'était l'effet vacances à l'époque, il y a 10 ans, sur le Stoub.
L'effet vacances scolaires.
Question de David 97, qui est sûrement né en 97, puisqu'il a 22 ans. Ah, c'est pas lui, mais c'est pas grave. Dommage, elle était bien, sa question. Mais David 87, ça sera plus loin. Il y a annoncé Gassi 67, qui lui est né en 67, sûrement. Simakan, comment l'OM a pu passer à côté de lui? Ça, c'est une question, ça se broie un peu.
Alors, je finis de...
Allez, tu t'en remets toujours pas.
Je suis très surpris, déjà, qu'on ait pu le récupérer.
Pas dans les réseaux Aligo.
Non, mais en fait, c'est lui qui avait fait le choix de ne pas rester à l'OM. Parce que, visiblement, la politique de formation à son époque, qui est assez récente, finalement, ne le satisfaisait pas et préférait aller jouer dans son quartier, donc le quartier d'Herbel, qui, pour le coup, est une vraie politique de formation.
Qui est un quartier de l'OM, c'est ça, de Marseille, je veux
dire. Un quartier de Marseille, oui. Un quartier assez défavorisé, mais
C'est un peu la Robertsau.
Un peu le quartier de...
Non, c'est pas vraiment la Robertsau. C'est plutôt, ouais.
Le quartier de Pierre-Hugues. Pierre-Hugues, Herbel.
Et du coup, ouais, c'est lui qui a fait le choix de ne pas rester à l'OM et d'aller dans ce petit club formateur et qui a des super éducateurs, dont un qui est sur Twitter, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est assez réputé. Et derrière, ce club avait quelques liens avec le Racing. Ils ont un peu une sorte de partenariat qui n'est pas vraiment officiel, mais qui existe.
Donc, ils ont ramené à Arache ou quoi ?
Non. Non, mais ça fait partie des clubs... des clubs qui ont des partenariats un peu avec le Racing, et il est allé récupéré par Pascal Drenet.
Pour leur envoyer Cornier, du coup. Okay.
Mais oui, ça s'est passé comme ça, mais on a vraiment de la chance de l'avoir, et c'est étonnant que, même pas à l'OM, mais qu'un autre club du Sud, type Nice, Monaco, ne l'ait pas repéré.
Nice avait recruté, je crois, un très bon espoir à l'époque, c'est pour ça qu'ils n'avaient plus de place. Hein, je crois qu'il s'appelle Issan Sako.
Ah, c'est pas la même génération.
Issan Sako qui a annoncé info Stoub
à 3.
À 3.
En prêt, ouais, mais il sera prêt en Ligue 2.
Ah oui, parce que.
Oh, mais il a joué un peu, hein.
Ouais, bah parce que.
Titulaire à la deuxième journée.
Ouais, vu qu'il n'y a personne. C'est...
Ils sont personne du tout.
Ouais. Mais ça ne devait peut-être pas durer.
Alors, et Simakan, c'est très bien.
Voilà, Simakan. La deuxième question, c'est une question du Gigas qui vient d'avoir l'idée. Enfin, j'ai pensé. Est-ce qu'on ne parle pas assez de la blessure d'Anthony Cassis? Est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui c'était un peu le couteau suisse, le mec qui avait vraiment fait une bonne saison l'année dernière, et le fait qu'il ait eu une baisse de régime et maintenant une blessure, est-ce que ça handicape pas beaucoup l'équipe? Il a porté beaucoup plus que ce qu'on voyait.
Alors, baisse de régime, quand ça?
Je sais pas, quand tout le monde était nul, quoi.
Ah, avril, mai.
Donc, dire que s'il avait été là, on n'aurait pas eu Endur sur le terrain, quoi.
Oui, déjà.
C'est la seule chose que ça aurait changé, oui. Finalement. Oui. Ça, ouais. Et c'est vrai que
on aurait peut-être gagné contre Endur.
Endur, il y a un an, on nous aurait dit que...
Hashtag perdu pour le foot, c'était moi qui l'avais dit.
Et en fait, là tu le revois titulaire en Ligue 1.
Et tu te dis qu'il est perdu pour le
foot. Alors, soit c'est un miracle, soit c'est qu'on...
Pour le Racing, du moins.
Donc non, vous, Anthony Cassi, vous n'êtes pas
bah, Anthony Cassi aurait sa place. Non, mais il manque quand même. Parce que,
si, ouais, bien sûr.
Ça peut paraître une blague de dire il remplacerait Endur, mais c'est vrai. Enfin, oui,
et là, t'es meilleur avec Cassi.
T'es meilleur avec Cassi.
Dimanche, t'aurais été meilleur avec Cassi qu'avec Endur.
Il aurait peut-être même été replacé à son poste de prédilection, de formation de numéro 6, oui. Éventuellement.
Ah, mais
même si la Lorée, elle n'est pas... On ne le voit pas comme ça, mais ça aurait peut-être été forcé par le destin.
Mais il manque dans la rotation, c'est certain.
Enfin, c'était un peu un cadeau empoisonné, ce truc d'espoir, parce qu'on avait la certitude qu'il arrêterait là-bas début juillet ou je ne sais plus trop quand, avec forcément les vacances décalées. Là, il n'a pas joué. Il a joué aucun match là-bas. Il a passé son été à Rimini.
Comme Sissoko.
Et donc, depuis, il est rentré avec... avec des problèmes physiques et tout.
Et il n'était pas forcément... Enfin, c'était pas prévu qu'il y aille, hein, puisqu'il était...
Non, il est appelé dernier.
Parce que Sissoko était déjà appelé. Quoi.
Oui, Sissoko, ça...
c'était moins une surprise. Oui.
Hein. Ouais, donc c'est un peu moche pour lui, ce qui lui arrive.
Après, ça c'est vrai, c'est parce qu'on a fait une bonne saison qu'on a ce genre de... C'est des problèmes de riches.
Oui, t'as des joueurs qui sont sélectionnés.
Tous les bons clubs, ils ont des mecs qui vont en sélection. Ils ont ils ont des mecs qui sont dans des rumeurs de transfert. Oui, ce qu'on n'avait pas les autres années, bah ouais, là, effectivement.
Mais cette année, ça pèse. Hein.
Alors, est-ce que ça pèse ? Peut-être qu'on parlera plus tard de Lala. Est-ce qu'il y a vraiment. Enfin, mais ça, c'est des problèmes de riches.
Au-delà de ça, tu peux parler de Motiba à la CAN, tu peux parler de Jonas Martin qui est perturbé entre sa prorogation de contrat et les rumeurs qu'il envoie droite à gauche à Rennes.
Et tu le sens nerveux. Parce que Martin, je le trouve beaucoup plus nerveux, moi, sur le terrain que l'année dernière, par exemple.
Bah, typiquement, sur le pénalty qu'il manque contre Rennes, tu peux te poser la question, est-ce que le...
Bon, il en manque un contre Marseille l'an dernier.
Oui, non, mais est-ce que le climat qu'il y a autour de lui, entre sa prolongation et les rumeurs de transfert, ça ne perturbe pas non plus ? Parce que c'est mental, là, tirer un pénalty.
Grégory Coupé l'aurait arrêté, par contre.
Grégory Coupé l'aurait arrêté, quoi qu'il arrive. Comme la frappe de McFadden.
Voilà. Et une dernière question, parce que c'est pour reparler de David 97 que j'ai cité. Maintenant, il s'est dit, tiens, il y a ma question, on ne va pas donner. Et on parlait de perdu pour le foot, et du coup, forcément, Jérémy Grimm.
Bah, Jérémy Grimm joue avec la 2. Donc,
perdu pour le foot professionnel, alors ?
Bah, je ne sais pas du tout. Après, est-ce qu'il est meilleur que ceux qui sont alignés actuellement ou qui sont sur les bancs ? J'en suis pas certain. C'est un joueur un peu de bout de banc qui jouera en Coupe de France, qui jouera certains matchs de Coupe de la Ligue.
C'est la fin pour lui.
C'est un peu la fin. Après, on sait très bien qu'on l'a prolongé plus pour le symbole et pour...
Quota alsacien.
Le quota alsacien.
Quota joueur formé au club aussi, non c'est...
Non, ça pèse pas. Mais... Encore que... Non, si tu as des listes UEFA où tu dois avoir des joueurs formés au club, mais je pense pas que ça ait joué.
En cas de sanction du fair play financier.
En même temps, j'imagine que c'est quand même compliqué pour un mec comme ça, hein, qui a sa vie ici, qui est dans la région depuis quoi, 15 ans
enfin, bah, il est né, football, il était là-bas.
Oui, il a fait une saison en Suisse, non
À part une saison de Lémont, c'est pas...
J'imagine que ça doit être compliqué pour un mec comme ça, parce que bon, des challenges sportifs, je sais pas, moi, à Lorient, il pourrait très bien aider.
Mais hein, il a eu une offre en Belgique, certes Bruges.
Mais ça fait long, quand même, je veux dire...
Bah, tu peux pas y aller en TER,
ça
fait
de la route. C'est ça.
Bah écoute, ça c'est très bien.
En tout cas, Grimm ne rentrera pas dans la rotation dans les médias.
Dernière fois qu'on parlait de Jérémy Grimm dans Radio Stuttgart.
Moi j'avais juste une question d'un ami après le match qui me disait je voulais votre avis. Il trouvait que les coiffeurs qui ont joué contre Rennes, il trouvait que eux-mêmes étaient cramés physiquement. Il avait l'impression qu'ils attendaient mieux en tout cas.
Du Cornier par exemple.
Alors je sais pas de
Motiba ou d'Acosta par exemple.
Non, moi Cornier là, je trouvais.
C'est une boutade, mais Cornier.
Donc, je sais pas si.
Cornier a été un des moins pires hein, quand même. Alors il a joué peut-être que 20 minutes, hein, mais bon, c'est toujours 20 minutes de plus que d'autres.
Hein. Mais sur les remplaçants, c'est pas faux. Normalement, contre Rennes, tu peux te dire on fait jouer les remplaçants, c'est pour apporter un peu de fraîcheur physique par rapport à ceux qui ont joué en Coupe d'Europe. Mais ça s'est pas vu. Enfin...
Bon, après, un mec comme D'Acosta a quand même pas mal joué depuis le début de saison. Hein. Il a quasiment joué tous les matchs.
Mais typiquement, un Motiba ou même un Indour qui ont pas beaucoup joué auraient dû amener un peu plus que ce qu'ils ont montré.
Est-ce que la hiérarchie est si claire que ça, de toute façon, là, entre les titulaires et les équipes types et les remplaçants ?
Il y a beaucoup de choses à construire cette année. Ouais. La hiérarchie, il n'y en a pas, puisqu'on doit faire tourner, on est un peu contraint. Et il y a cette histoire de l'animation offensive que Loré a reconnue dans les DNA. On n'a pas eu le temps de bosser ça. Ça fait que depuis, bon, même en fin de saison dernière, pour se créer des occasions, c'est la croix et la bannière. Et cet été, on n'a pas eu le temps de lancer un nouveau un cycle de travail sur l'animation. Quoi. Donc on doit faire avec ce qu'on sait faire de l'année dernière, mais qui ne marche plus.
Après, je trouve qu'un mec comme Moktiba, par exemple, il a l'image du Racing. Ça fait quand même 7-8 mois qu'il est un peu qu'il y est plus trop, hein, qu'il est un peu en dedans. Hein. Et j'imagine que ces mecs-là qui ont joué la CAN, c'est pas évident pour eux de repartir sur une nouvelle saison.
Parce que comme lui, il a bien
c'est
joué.
C'est hein. Typiquement le mec qui est dépendant des autres.
Oui.
Et on voit que un peu livré à lui-même. Bah, il est absolument à la rue. Quoi.
Mais ça fait depuis quand qu'il a pas marqué, lui? Ça doit faire 7-8 mois. Hein.
Enfin, moi,
depuis,
il a marqué sur pénalty à Nantes. Mais bon,
c'est vrai. Ça compte ouais. Pas, ça.
Mais je veux dire, dans un match, entre guillemets, qui comptait.
On parle du match que Kawashima a joué, quand même.
Ouais. Tu lui permets donc d'être le seul joueur du Racing non, avec 100%
ça, il marque à Nîmes au mois de mars. Il marque à Nîmes ou pas? Au mois de mars.
Il marque à Nîmes.
Ouais, c'est Gigas n'a pas vu le match.
Joker.
Moi j'y étais, ouais, il marque à Nîmes, effectivement.
Non, mais autrement, même s'il marque.
Mais Motiba, il a flambé.
Il a flambé sur des occasions énormes. Il avait loupé des face à face où il était à 6 mètres du but, il tirait sur le gardien. Et il y avait des signes comme ça déjà.
Mais là, on peut se demander quel est le vrai niveau de Motiba. Est-ce que c'est le mec qui cadre, qui marque sur tous ses tirs cadrés? Ou est-ce que c'est le Motiba qu'on voit actuellement?
Moi, c'est l'actuel.
Le roi de la balle piquée.
Bah. Mais ça veut dire que Motiba, c'est pas vraiment en Ligue 1 actuellement. Hein.
Non.
Mais il est un peu à l'image du Racing. Ça fait 6-7 mois que c'est plus ça. C'est voilà, pour faire une analyse très simple. Parce qu'il rentre contre Francfort, mais il perd tous les ballons contre Francfort.
Ah oui, mais il fait rien contre Francfort.
C'est même
comme Rennes.
Alors j'imagine que c'est non plus pas évident pour un mec de rentrer là à 5 minutes de la fin et puis d'être le seul à l'ensemble. Mais n'empêche que
le Racing, il conserve. Si tu regardes. Que lui pendant tout un match, il garde jamais un ballon. Il se fait secouer par n'importe quel défenseur. Et il se fait
en protection de balle, il est pas mauvais, mais techniquement c'est.
Ouais,
c'est
non, il protège la balle.
Physiquement,
il protège, mais après il se prend un coup d'épaule, il vole ou il fait une déviation qui part en touche. Il est des fois affligeant un peu de technique.
Il a la tête ailleurs.
Non, ça je sais pas, mais des fois ouais, c'est un joueur qui est. Moi, je suis un peu ébahi devant son niveau.
Et ben, ça tombe bien qu'on parlait de ce match de Francfort, puisque le prochain thème dans mes fiches, c'est la Coupe d'Europe.
Ce soir, c'est la Coupe d'Europe.
Après-demain
soir.
Sur l'art
de Go West, hein, comme nous disait l'équipe.
Go West.
Pour ceux qui n'avaient pas entendu.
Je n'ai jamais fait attention.
Des village people.
Ouais. Ça, c'est...
On en parlera plus tard. l'Europe, stop ou encore faut-il faire le Brexit ou... Voilà, le Racing a disputé 4 matchs.
5.
Ouais, bien sûr, 5. Ouais. 5 matchs. C'est là où il a le plus performé, notamment ce premier match face à Haïfa, où là, on est plutôt satisfait de la copie rendue par le Racing.
Seul club français à gagner en Europe hein, cette saison.
Mais est-ce que Racing a été si flamboyant que ça en Coupe d'Europe
contre Haïfa à domicile?
Non, mais surtout contre
Haïfa à domicile,
c'est la réussite.
Après, pour moi, c'était un match qui était très ouvert, très sympa.
C'était un amical déguisé.
C'était un amical, alors personne ne défendait. Haïfa tape le poteau, il se retrouve à 10.
Oui.
Et après,
il tape deux fois le poteau.
Oui, il tape deux fois le poteau. Alors nous, on tape la barre aussi.
Une expulsion pas méchante,
d'ailleurs.
Une
expulsion fort généreuse pour Racing. Donc c'est un match, on aurait pu repartir de ce match avec un partout, avec là-bas on se fait bien bouger.
Ah bah là-bas on perd totalement nos moyens.
C'est pas un bon match. Plovdiv, bon c'est
Plovdiv, un adversaire c'est
d'un calibre quand même beaucoup moins intéressant. Bon Francfort là on tient bien.
Plovdiv aussi, les éléments avec l'expulsion et le but direct derrière.
C'est la
10e expulsion et sur le coup franc derrière on marque.
Mitrovic qui est tout seul, qui a tout le temps de faire ça.
On est un petit peu ballotté quand même. Mais à l'époque, c'est pas. Disons, le résultat l'emporte et. On a eu quelques occasions pour marquer.
Disons, sur ces deux matchs aller, il y a 3-1 et 1-0, mais on pouvait se dire.
On aurait pu finir
à 6-1 et puis à 3-0. Quoi.
Contre Haïfa.
Ouais, contre Haïfa, on a combien de possibilités, franchement.
Il y avait moyen de mettre.
Ouais, mais c'est Haïfa, non, aussi.
Alors, c'est 11 contre 10.
Oui, oui, 11 contre 10. Mais je veux dire, Haïfa, tu te dis 3-1 le match aller, tu te dis pas que c'est un super score, quoi. Hein, tu...
Ah, ouais, ouais. En deuxième mi-temps, c'était vrai, ouais, ça frappait.
On finit à combien, la 60e. Moi, je crois qu'on avait eu 8 ou 9 frappes, les 7 ou 8 étaient, à étaient pas cadrés.
Ouais, mais on n'est pas loin du 2-2 à un moment aussi. Enfin, c'est pas si évident que ça. Ouais.
Bah, pour moi, il n'y a pas de vise. Il n'y a pas vraiment. Le Racing flamboyant en Coupe d'Europe et mauvais en championnat. Mmh. Je trouve que c'est pas extraordinaire non plus. Alors, contre Francfort, c'est une grosse perf quand même de, oui. d'avoir gagné 1-0 et d'avoir tenu.
Parce que pour le coup, Francfort, c'est solide.
Parce que là, là c'est quand même un.
Là, tu vois la différence de niveau.
Il y a pas mal de monde qui disait ouais, Francfort, c'est pas si fort et tout ça. Pas seulement pour faire la rime, mais c'est aussi pour. J'ai trouvé cet avis assez expéditif parce que Francfort est une équipe aussi qui doit se reconstruire. Mais on sentait qu'ils avaient quand même des bases largement supérieures à ce que le Racing peut faire au maximum.
Ah non, mais il y a des enchaînements techniques de très très bon niveau à Francfort.
On était devant, on voyait pas la balle. Mais Francfort, on les prend au bon moment aussi parce qu'ils ont plus d'attaque.
Et là, ils sont obligés d'aligner Rebic seul en pointe.
C'est une équipe qui est quand même un peu au-dessus du Racing, je dirais même largement au-dessus. Mais sur le match aller, on a pu rivaliser.
Alors, qu'a dit Kickers qui t'a.
Apparemment, Strasbourg ist eine Durchschnittsmannschaft. Non, je vais le dire en français. Une équipe sous la moyenne qui jouerait le maintien en Bundesliga. Bon, ça, je ne sais pas comment ils peuvent se permettre de dire ça. Est-ce que Strasbourg est meilleur que les nuls de Bundesliga? Ça, je ne sais pas. Hein.
Bah, c'est pas faux. Enfin, on jouerait le maintien en Bundesliga.
Bah, on joue en France déjà.
On joue le maintien en France, c'est vrai.
À une guerre près.
Non, mais vu qu'en Bundesliga, à 18 clubs, il y a la moitié qui joue l'Europe et la moitié joue le maintien. Mmh. Oui, c'est sûr qu'on est dans la deuxième partie.
Oui.
Donc c'est une campagne qui est satisfaisante au niveau du résultat, mais qui n'est pas flamboyante. Il n'y a pas deux visages, comme disait Rachmar. On ne donne pas tout sur la Coupe d'Europe. On a plus des... On va dire qu'un peu les faits de jeu nous sont favorables. On a des exclusions, on marque et on tient. Mais après, ça reste quand même bien, parce que ça reste mieux que les trois quarts des clubs français quand ils se pointent dans des matchs de Ligue Europa ou de barrage.
C'est pas Bordeaux contre Villers-Boutons.
Au moins, si on se fait sortir, ça sera pas la honte comme Bordeaux. Enfin, la liste est assez
comme Saint-Etienne, Nice, il y a 5-6 ans.
Esberg
Elfsborg et Esberg.
Là, j'ai même vu un petit frémissement là, jeudi soir. Sur Twitter, des gens qui sont pas du tout alsaciens qui demandaient. Qui ont regardé le match.
Quoi, Strasbourg qui ont vibré.
Qui n'étaient pas forcément des fans de. Ils ont la chaîne, ils ont regardé le match. On sentait qu'il y avait un peu de retentissement national.
Les Rennais regardaient avec.
Voilà, il y a des gens. Les fans de foot français ont un peu regardé le match. Et on n'est pas passé pour des.
Pour des guignols.
Et on a fait un bon match, jeudi. Pour le coup, jeudi, on a fait un vrai bon match. Il y avait une certaine solidarité. C'était un vrai match de coupe. Quoi. Alors on a de la réussite un peu en deuxième mi-temps parce que Francfort peut nous en planter deux sans problème. Mais je veux dire, il y avait une certaine rigueur tactique, il y avait quelque chose, je dis.
Mais on sentait que c'était le match important de la période, puisqu'on s'est un petit peu préservé contre Reims, et qu'après le match de Rennes, on allait aussi
on a volontairement fait tourner dans la
perspective du retour aussi. Ouais. Donc cette fois, oui, on peut clairement afficher l'intérêt du Racing pour cette coupe. Et ça, c'est tout à notre honneur.
Eh bien, ça tombe bien. Alors, parce que maintenant, j'ai une question de Ross 3, qui était au match contre Francfort.
Et qui était au match contre Raon l'étape, hein, avec la réserve.
Voilà, match très sympathique, à ce que j'ai entendu.
Tout à fait.
Malgré une victoire de 1-0 de Raon l'étape.
On en parlera peut-être tout à l'heure.
Peut-être, si on a le temps. Faut-il jouer à fond le match de jeudi soir?
Bah oui.
Ah oui, évidemment. Bah, ça n'a pas l'air si évident. Sur le Stoub, il y a quand même pas mal de Stoubistes qui disent vivement qu'on balance, vivement qu'on soit éliminé, qu'on balance le match.
Là, ça, c'est la mentalité Francis Gillot.
Non, mais là, c'est trop tard. Ça, il aurait fallu le faire au premier match, au deuxième tour préliminaire. C'est pas maintenant, alors qu'on a fait les 5-6e du chemin pour arriver aux poules, qu'on va balancer le match.
Ouais, là, c'est ça.
Quand t'as fait 2 heures de queue pour un truc, il t'en reste plus que 10 minutes. Tu vas pas dire, hey, je me casse, j'ai attendu trop longtemps. Faut y aller à fond. Après on verra. Là, on va peut-être recruter. Enfin, on recrutera a priori après. Derrière. Là, c'est sûr que c'est un peu bancal parce que je comprends que le club n'ait pas voulu non plus recruter comme s'ils allaient jouer les poules. Certains joueurs, ils attendent un peu de voir ce que ça va donner. Donc voilà, là, les choses, vraiment, après-demain, on va en savoir beaucoup plus. Hein.
À l'époque, il me semble qu'il y a une rumeur, est-elle vraie ? Vous allez me confirmer. Comme quoi, on avait raté Giovanni Elbert, parce qu'on n'était pas sûr d'être qualifié justement en Intertoto.
Il était annoncé à une époque au Racing,
quand il allait à Stuttgart.
Ouais, je pense, à cette époque-là. Et ils avaient dit, on l'a pas pris parce qu'on n'était pas sûr de jouer la vraie Coupe d'Europe. Du coup, niveau budget, c'était pas pareil. Et donc, ça s'est pas fait. Et il a préféré signer.
Mais on parlera du recrutement tout à l'heure. Mais aujourd'hui, c'est le recrutement, mais c'est même toute la saison, l'organisation de la saison, qui est conditionnée par le match retour contre Francfort. Si on passe, forcément, ça te fait, c'est 3 millions de plus ou 5 millions d'euros de plus, garanti.
Je crois que c'est 3 millions de brousouf garanti, plus les primes, plus les
billetteries.
Les billetteries,
voilà, les recettes billetteries.
Fait 5 à peu près.
Ah, voilà,
6 matchs en plus minimum.
Mais ça te conditionne tout. Ouais. Tu as 5 millions de plus, donc tu peux recruter concrètement, tu peux recruter plus de joueurs. Pour recruter des joueurs de calibre supérieur,
c'est plus attractif aussi.
C'est plus attractif.
C'est rien comparé à ce que tu gagnes en Ligue des Champions. Tu gagnes 5 fois plus.
Ouais. Non, on est d'accord, mais à notre échelle.
Mais quand on aura gagné l'Europa League.
On en parlera dans un prochain Radio Stoub. Mais aujourd'hui, à notre échelle, ça conditionne toute la saison. Tu ne recrutes pas les mêmes joueurs, tu ne t'organises pas de la même manière en championnat. Enfin, c'est toute la saison qui change. Si tu te fais éliminer, t'as un match toutes les semaines et on peut se contenter de l'effectif qu'on a et jouer tranquillement.
Mais peut-être quand même prendre un. On va en parler.
Oui.
Dernière question, je voulais quand même qu'on cite, de Julien Gester, qui nous demande: Lorraine ne devrait-il pas balancer l'Europa League, ça comme tous les ch'toubistes qui nous connaissent en foot, hein. La Ligue 1 et la Coupe de France, pour tout miser sur la Coupe de la Ligue qui présente le meilleur ratio participation-victoire de l'histoire du club.
Sachant qu'on rentrera un tour après les autres.
C'est pas con, parce que combien de matchs jusqu'à la finale ?
En 3, je crois.
Bah ouais, du coup,
tu rentres en 8e.
Tu gagnes 4 matchs, qui est à nouveau...
Europa, t'es de nouveau pseudo-européen.
Et après, on rebalancera le match.
Il a raison, hein. Il a raison.
Où est la finale
au Stade de France.
Retour au Stade de France. C'est magnifique. Là, il pourrait y avoir, je pense que... avec une méno à 50 000 places, ça nous fait 250 000 Alsaciens au Stade de France, c'est ça. Donc voilà.
On ne balance pas la Coupe d'Europe.
On ne balance pas la Coupe d'Europe. Alors bien sûr, il y a aussi des ch'toubistes qui ont dit on s'est tellement fait chier à vouloir la jouer depuis des années que maintenant... Ouais.
Et puis si tu la balances pas, c'est quoi ? C'est que tu te réserves pourquoi ?
Pour jouer contre Monaco ?
Jouer la 10e place,
en fait,
jouer la 12e.
Tu vas tout le temps te réserver pourquoi ? Et à un moment, il faut balancer. Vraiment, faut
balancer la purée, là.
Faut montrer tes cartes.
Mais il n'est pas question de jouer le top 10. Si d'aventure, on n'irait pas en Coupe d'Europe. C'était pas les objectifs annoncés.
Ouais, mais est-ce qu'honnêtement, on a vraiment le... Aujourd'hui, est-ce qu'on a le niveau pour jouer le top 10 sans Coupe d'Europe ?
Oh oui, évidemment.
Alors, franchement, et là, tu...
Et on a battu Francfort à l'année, les gars. Hein. Je pense qu'un top 10, là, ça peut se faire. Hein.
Moi, je trouve que c'est très bien d'y aller à fond. Mais effectivement, c'est un peu bancal, là, actuellement.
Ah, mais quitte à finir 15e. Ouais. De toute façon, en championnat, on trouve facilement 3 équipes plus nulles que nous. Intrinsèquement.
Espérons, oui.
Enfin, non, mais Dijon, Nîmes, Brest,
Metz,
c'est
ce qui peut nous rassurer par rapport à l'analogie 2006. À l'époque, est-ce que vous disiez qu'il y avait des
3 MS, hein.
Est-ce qu'il y avait des clubs plus pires que nous à l'époque ?
3 MS.
Oui, 3
MS. Ils ont fini devant nous.
On finit pas 19e. Je crois que Metz finit derrière.
Mais à cause des points, non ?
Ouais.
Non, ça c'est en 2001.
Je vais vérifier dans les archives.
Metz finit 2 ans après.
Il y a Le Mans, Le Mans et Lorient, je crois. Non, pas Lorient, mais Le Mans.
Le 3 était vraiment lamentable cette saison. Comme la saison dernière.
Mais en tout cas, oui.
Toutes les saisons. Mais c'est quand là, c'est quand Coassi Blaise Gagnon.
Ouais, exactement.
Mais de toute façon, oui, la question c'est: est-ce qu'il vaut mieux faire un parcours européen et finir 16e, 17e dans l'anonymat ? Ou alors faire un championnat entre 10 et 12 et sortir contre Francfort.
C'est un parcours à la Bordeaux 96.
Ouais.
Mais je crois qu'il y en a qui craignent qu'on fasse un parcours correct et qu'on descende.
Ouais, 19e, à différence de but.
Et j'ai une dernière question là, que je viens de retrouver, qui vient de tomber sur le téléscripteur, hein, le Telex. C'est Monsieur Foot de Foot. Et c'est pas mal, elle lui dit « Ne pas avoir recruté de joueurs expérimentés pour passer ce tour ». Donc de Coupe d'Europe, n'est-ce pas une erreur ? Ne manque-t-il pas un peu des joueurs ? Alors on a Mitrovic, mais est-ce qu'avoir pris un taulier, un mec qui aurait pu nous apporter du savoir-faire européen ?
Ça aurait été un risque.
Jacques Delors, tu vois.
Déjà, ça coûte cher, ce genre de profil.
Ouais, puis c'est seulement de prendre des mecs en fin de carrière, sans challenge, un peu à la Cornier, quoi.
Non, mais pas forcément, mais Dessels et Dmitrovic, hein, qui sont aujourd'hui effectivement les joueurs les plus mieux payés de l'effectif.
C'est pas des mecs que tu peux choper fin août.
Oui, mais c'est ça. En fait, la question, c'est est-ce qu'on prend ces mecs pour essayer de passer Francfort, ou est-ce qu'on essaye de passer Francfort pour prendre ce genre de mecs? Le Racing a fait le deuxième choix.
Ouais. Et encore, je suis même pas certain que même si on passe ce tour, on arrive à.
On va les viser en tout cas.
Choper ce genre de mec.
On va les viser.
Oui.
Si on passe ce tour, on essaiera de viser ce calibre.
Bon.
Donc voilà, la réponse était claire, Dator, avec ce magnifique cercle inversé. une autre question qui tombe encore en même temps, avec quelqu'un qui me dit oui, on parle de Benjamin Cornier. Sera-t-il présent cette saison et être un joueur crédible dans la rotation? Ça, je pense que c'est une question pour Kittle.
Dans la rotation, bon, ça dépend à quel niveau. Est-ce que c'est l'équipe des titulaires ou c'est le groupe élargi avec Endur ou l'infirmerie, quoi, je sais pas. C'est... Ah, la tartine est tombée du mauvais côté.
Là, non, c'est mais... la loi de Cornier.
Ça, ça dépend, ouais. Ça dépend si on passe si on se qualifie ou pas. Hein. Mmh. Parce que si on se qualifie en Coupe d'Europe, le dimanche, il y aura forcément le match de championnat. Il y aura forcément une équipe B. Et puis,
non, mais pour moi, Cornet, l'année dernière, il a disparu de la circulation, pas parce qu'il était. Pas parce qu'il y avait mieux que lui, mais parce que tout à coup, il jouait deux matchs et après, c'était fini. Parce qu'il était. Il était en fringale tout à coup, il n'y avait plus aucun.
En PLS.
Ouais, il n'y avait plus aucun moyen de le récupérer. Et après, ouais, il a une petite gêne à je sais pas quoi, à l'aine, à la cheville. Ouais, il est allé aux soins cette semaine et tout ça. Après, il disparaît de la circulation.
Mais ça doit être dur quand même pour ces types-là. Parce que Cornier, qu'on le veuille ou non, il a quand même encore du football. Hein, je veux dire,
ouais, mais
le problème, c'est que physiquement, voilà. Je veux dire, moi, contre Plovdiv, au bout de la 5e ou la 6e minute, il était déjà cramé. Hein, il avait déjà du mal à.
Mais au tout début des matchs, ouais. Il met un temps fou pour contrôler un ballon correctement. Et là, on se dit, ouais, c'est fini. Donc, moi, j'ai eu une mauvaise impression de son match contre Rennes, parce qu'au tout début, il a perdu beaucoup de ballons. J'ai eu du mal à me dire qu'il était finalement pas si mauvais.
Oui, pourtant, il a fait quelques belles actions. Tu sens effectivement qu'il a du foot encore, que techniquement, il y est. Il a du mal à enchaîner.
En fait, il était un peu comme l'équipe. À partir de la 30e, ça allait un
il
peu mieux.
Il a participé au dernier quart d'heure de la première mi-temps.
Ouais, c'est ça. C'est ça.
Mais après, quand on a son occasion aussi, face à face avec le gardien, il est lancé et tout, et il balance une pichenette du gauche, un peu pourri. Donc là, il y avait peut-être un ballon donné aussi. Donc voilà, compter sur Cornier, c'est... jeter le sort de la saison entre les pieds de Cornier, là, ça me semble un peu exagéré.
Et pourtant, Filzer, il met de la pêche hein, sur son nom. Benjamin, il est à fond, mais malgré ça, hein, ça passe pas.
Ah, si seulement on n'avait que des Filzer sur le terrain.
On en a dans l'émission.
Dans l'émission. Eh ben, sans transition, on va passer au mercato. alors, je crois que c'est 60, parce que là, j'ai fait un copier-coller qui ne marche pas très bien. Mais il a dit...
La lumière marche plus trop. Donc.
Nos radios stubistes.
Dans la pénombre.
Ouais, on respond dans le noir.
Nos radios stubistes pourraient-ils faire un point mercato complet? Satisfait, pas satisfait des nouvelles recrues? Bon, déjà,
ça ira vite.
Faut-il se renforcer à ces postes? Au regard du peu de matchs joués, ont-ils déjà relevé de grosses lacunes à certains postes? Et si oui, lesquels? Si du coup, est-ce qu'il faut recruter? Si jamais, sinon, est-ce que toi, tu veux aussi me donner? Voilà.
Ton numéro de téléphone. Donc, apparemment, là, Souquet là, a mis un super but ce soir. Un virtuel me dit, hein, du ch'tou.
Parce qu'on joue la Coupe de la Ligue ce soir. Hein.
Deuxième tour. Non, c'est
du championnat. Hein. C'est le Montpellier.
Ah, c'est vrai.
Autant
pour moi.
Match annulé.
Match G7.
Voilà, match G7. Donc voilà, alors le mercato, on va commencer par les foultitudes de recrues.
3.
3.
Ouais, 2.
2
et demi. 2 et demi.
4 avec Simakov.
Bah non, Kawashima. Non. Sinon, tu peux parler de Cody Williams aussi. Enfin, c'est un peu
donc,
le bordel.
Jiku, Bellegarde.
Et Koné.
Alors Koné, bah, ça va être vite fait, on le connaît.
Voilà, merci.
Alors moi, je vais parler de Bellegarde, ça ne dérange pas.
Mais, bien sûr, vas-y, Rachman.
Droit au but.
Qu'on a senti très enjant en préparation. Et là, j'ai l'impression qu'il a un peu disparu.
Ouais, là,
ou est-ce qu'il est un peu dans le dur? Est-ce que,
Il est dans le deuxième col de la journée et il s'est rattrapé après avoir été dans l'échappée.
Parce que moi, je me suis dit, ouais, il va être titulaire indiscutable. Et puis en fait, bon, finalement, les arabesques... Ouais, les matchs amicaux,
il faut se souvenir
de Haïfa. Haïfa,
il fait un super match.
Et qu'après, alors est-ce que c'est. Je sais pas, est-ce qu'il a
Non, mais il faut se souvenir de ce que c'est comme joueur. Ça reste un jeune joueur qui n'a pas encore forcément fini sa formation.
Surtout à Lens.
Surtout à oui. Et qu'on a recruté plus pour jouer un peu, être un joueur de rotation qui amène un peu son peps en cours de match mais, et qui joue quelques matchs en Coupe d'Europe contre des petits clubs ou des matchs de coupe. C'est pas un titulaire. Hein. Finalement, il remplace Gonçalves et il aura le temps de jeu de Gonçalves sur la saison.
Ouais, mais il ne bat pas autant que Gonçalves et il ne met pas de but contre Paris.
Ça, on ne sait pas. Hein. Rendez-vous le 14 septembre.
Donc, il est pour toi, il est au niveau attendu.
Oui, après, il aura des hauts et des bas dans la saison. Là, on a déjà eu les hauts et les bas jusqu'à maintenant. C'est un joueur qui est forcément irrégulier, puisque c'est un jeune joueur qui n'a pas fini.
Peut-être avec un jeu à risque aussi, du coup.
Oui, après, il faut qu'il simplifie aussi son jeu. C'est ce genre de joueur aussi qui prend le ballon et qui veut tenter une percée de 30 fois de balle au pied.
Comme au Five.
Comme au Five. Parce que ça serait pas le Ousmane Dembélé du pauvre.
C'est pas le même poste.
Ouais, oui, c'est vrai qu'il joue plus bas.
Mais je crois avoir lu une question justement de quel est le poste de Bellegarde.
Il a un peu écoute, si y a cette question, je vais retrouver le Stubiski qui répond.
Tu vas trouver 8.
Mais pour moi, oui, je pense que c'est un 8.
8 côté droit.
Voilà,
pas côté gauche.
Quand on joue en 4-3-3, par exemple, c'est le relayeur droit.
Mais pas un ailier.
Pendant de Lienard.
C'est pas un ailier, mais il peut jouer sur le côté dans 4-4-2, par exemple.
Justement, c'est lui sur une énième pseudo-percée qui perd la balle contre Lens, hein, sur le 1 partout.
Oui, bien sûr.
C'était effectivement une question de super doux.
Ah merde.
Quel est le poste idéal de Bellegarde pour qu'il apporte un vrai plus à l'équipe?
Sur le banc. Mais c'est, oui, bah,
pour rentrer.
Idéalement, ce serait le 12e, 13e homme.
Comme les 6e hommes en NBA.
C'est ça.
Qui n'ont rien
le mec d'enfermant. Manu Ginobili, voilà, très bon 6e.
Bah, je veux dire, c'est un mec jeune qui n'a jamais joué en Ligue 1.
Tout à fait, oui.
Ça aurait été surprenant. Subitement, il se retrouve à marcher sur tout le monde et chier sur la Ligue 1.
C'est pas Kenny Lala.
Oui.
Ah, ouais. Pour moi, c'est normal parce que c'est comme si on avait un joueur du centre qu'on sort un peu comme ça. Ouais. Mais les gars du centre, on est beaucoup plus patient avec eux. Les mecs du club, comme ça, on se dit ouais, c'est le gamin, on l'avait joué à Molsheim et tout. Là, on a joué contre Sarreguemines, là, il joue contre Metz. Il est passé de la sous-préfecture à la préfecture. voilà, il est top. Et on est patient avec lui. Il loupe une passe, mais on l'applaudit quand même et tout. Alors que Bellegarde, il a coûté 2 millions. Et voilà, on a jeté notre mercato entre les soifs de Bellegarde. Et dès qu'il loupe un truc, il faut tout de suite le sortir.
Et en plus, il prend le numéro de Gonçalves.
Ouais. Typiquement, Bellegarde, il a un an de plus que Anthony Cassie, par exemple. Donc voilà, ça remet un peu
dans cette perspective. Optique, pour moi, dans ce fameux truc de post-formation, Bellegarde est à ce niveau-là, il est dans ce type de mercato. Donc, pas tout de suite, mais quand même, ponctuellement, il peut rendre des services.
Il y a 2 ans de plus que
ça. Mais il faut encore savoir où le placer. Non, 2 ans de moins que Zoé.
Ouais, 2 ans de moins que Zoé, pardon. Ouais.
Alors, la deuxième recrue, c'est Djikou.
Alexander Djikou. Et ça, c'est un bon coup.
Qui avait été vanté à chaque période de transfert depuis 5 ans par Speedy67. Donc, il nous disait que c'était un super défenseur, qui faisait des relances et tout à la Gérard Piqué ou je sais pas quoi. Enfin, qui faisait des super relances.
À Beckenbauer.
Ouais, voilà. En France, un Kaiser. Donc... bon là ouais je trouve qu'il met du temps un peu à s'intégrer dans le schéma défensif parce que la répartition des tâches et tout entre les trois c'est encore un peu perfectible mais sinon ouais je pense qu'on n'est pas perdant par rapport à Martinez.
Mais non.
Martinez avait un côté gaucher qui pouvait équilibrer un peu et qui avait aussi le côté showman avec le tac et tout ça.
Mais Loré disait que.
Et Twitter.
Loré disait que Djikou, c'est la première fois qu'il jouait dans une défense à 3, donc effectivement, il est repère à prendre. Il a toujours joué soit à côté droit à Bastia, soit axial droit à Caen, dans une défense à 4.
Bon, je pense qu'à Caen, ils faisaient 2 postes en gros, parce qu'il devait à chaque fois compenser l'autre.
Bah, il compensait Paul Baïs.
Ouais.
Donc c'était difficile.
Mais on a vu effectivement une communication peut-être un peu défaillante. Ouais. C'était contre Haïfa, je crois, ou. Ils se font prendre dans le dos avec Mitrovic sur un but
là-bas
sur le ballon. Ou de façon un peu hâtive, on dit ouais, c'est Mitrovic qui est à la rue, alors que en fait quand on regarde Mitrovic marquer un mec, c'est l'autre le gars dont Djikou s'occupait plutôt. Alors j'ai l'impression que Djikou avait plutôt joué le hors-jeu Et Mitrovic, lui, a été suivi. Donc, enfin, bref, il y a...
L'alignement, c'est compliqué à jouer quand c'est à trois défenseurs.
Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est peut-être ce genre de choses qu'il faut faire mettre en place. Mais peut-être qu'il manque aussi de temps pour faire ça avec la Coupe d'Europe. Il n'y a pas que les
enchaînements offensifs.
Il y a aussi peut-être ce genre de choses qui...
Alors que notre dégustation de bière belge se passe.
Là, on fait une pause fraîcheur, hein, c'est ça.
Enculé.
Alors, qu'est-ce qu'on a?
C'est une cuvée des trolls.
Cuvée des trolls, c'est un peu fort, ça. Hein.
Donc, il n'y a que du fort.
Il n'y a que du fort. Ouais, que...
Donc, voilà, donc, ça, c'est nos guillotine. C'est nos trois recrues. On va parler des futurs.
Des presque recrues.
Des presque recrues ou des futurs recrues?
Ah, je ne sais pas.
Bah, on annonce, par exemple, aujourd'hui, les Bogang Piri de Guingamp, milieu défensif. Alors, est-ce qu'on a besoin d'un milieu défensif?
Piri.
Encore un Lebo.
Et encore un Lebo, on aura deux Lebo gangs.
Après, Lebo et Blanc, allez.
Ça va. Et après,
Adrien Lebo.
Adrien Lebo, effectivement. Ouais, ça fait.
Bah, la question, c'est de savoir à quel poste on a recruté. Au-delà de savoir quel calibre de joueur on doit chercher, à quel poste on a encore des besoins.
Devant, il manque le vrai buteur, comme Gerd Müller à l'époque, le 9.
Il manque un 9 et un 10.
Alors, mais juste, moi, il y a quand même une chose qui me surprend, c'est de voir encore Da Costa dans des rumeurs de transfert.
Partant.
Oui. Vers des clubs très moyens.
Bah, Da Costa à Dijon, hein, c'est la rumeur, le deuxième rumeur. Ouais,
mais... on avait vu ça, il y avait quoi déjà?
Nîmes.
Donc, alors, est-ce que c'est des rumeurs qui sont sérieuses?
Parce que Dijon, cette année,
Dijon,
c'est vraiment
ouais,
nul.
Mais toi, c'est Le Mans, quoi, hein, et puis,
est-ce
et
que
puis Chambly.
Est-ce que c'est des rumeurs sérieuses?
Et ah, Chambly, bah, attention.
Alors, évidemment que non, on est fin août. Il y aura pas grand chose comme
information sérieuse. On n'a aucun intérêt et le joueur a aucun. Enfin, je vois pas l'intérêt qu'on a, nous, à lâcher.
Renforcer un concurrent.
Oui, en plus, renforcer un concurrent, mais Da Costa aurait peut-être l'assurance d'être titulaire dans ces clubs-là, alors qu'il ne l'a pas chez nous.
Oui, mais ces clubs-là, ils vont avoir quoi pour payer?
Oui, il y a cette question.
Combien ils vont mettre? 1,5 million.
Mais à combien on est prêt à lâcher Da Costa?
Pour moi, pour moi, je pense que ces clubs-là n'ont pas les moyens de mettre la
somme. 2-3 millions, Da Costa.
Est-ce qu'à 5 millions, on lâche Da Costa?
Un peu là.
Non, je suis pas certain que Dijon soit non plus une concurrent direct.
Dijon, beaucoup moins dur.
Ouais, moi, à moins de 3, je lâche pas. Hein.
Bah, sans
vous le trouvez si mauvais que ça
Non, il a souvent provoqué des situations.
Est-ce que tu penses qu'il a atteint son plafond ou pas?
Moi, je trouve qu'il aussi. Moi, je pense qu'il vendange beaucoup.
J'ai l'impression qu'on a déjà le remplaçant tout désigné, qui est Kevin Zoey. Au-delà de l'amour qu'on porte pour Kevin Zoey à Radio Stoub. Mais Kevin Zoey, pour le moment, il a prouvé plus que Da Costa cette saison.
Et t'as eu son but de renard, là, joli.
Oui.
But qui pourrait compter cher. Hein.
T'as vu, c'est une dans l'équipe où il a l'œil fermé et tout. Ouais, c'est...
Après, n'oublions pas que Da Costa, c'est le... sans lui, il n'y a pas de Dimitri Guénard contre Lyon.
Oui, aussi.
Mais moi, c'est toujours.
Mais effectivement, l'histoire du plafond, là, je suis d'accord avec Calcio, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il avait montré une première saison intéressante, il a fait une deuxième saison moyenne, non, et là, on a l'impression qu'il part sur
l'automne.
Des bases.
Non, à l'automne, il y a un an, quand il avait déjà mis pas mal de buts, quand il perforait, on se disait ah ouais, il y a Lyon, je sais pas qui va récupérer 15 millions, ça me fait chier, Da Costa, c'est le meilleur. Et maintenant, on n'a que les clubs qui vont jouer le maintien qui s'intéressent à lui.
Mais c'est un joueur qui va, verser 29 ans. Hein, en février prochain, il a 29 ans.
Je trouve que c'est un des rares joueurs du Racing qui est meilleur comme remplaçant que comme titulaire. Parce que je trouve qu'il apporte un certain peps.
Il n'y a pas trop de
effectivement, règles, hein. Mais comme titulaire, moi, je l'ai rarement trouvé.
Je déplore qu'il ne comprenne toujours pas comment rester sur ses appuis.
Ah oui, non, c'est un patineur. Hein.
Mais le gars, il va à fond dans une direction. Et en un dixième de seconde, il essaie d'aller à l'opposé.
Et glisse.
Et bah, ça tient pas, en fait. Et il va à tous les matchs.
Après, je suis pas bon.
Non, mais il apporte de la confusion.
Mais non, mais moi, j'aime quand même bien ce joueur. Mais moi, si j'apprends qu'on l'a lâché pour 1,2 million à Dijon ou à Nîmes, je serais pas content.
Mais on l'avait acheté combien d'ailleurs?
1,5. Il me semble.
Ouais.
Je vais vérifier dans les archives.
Mais bon.
Donc ça, c'était pour le côté départ. Hein.
Alors, si on est sur les départs, avant de parler...
Départ, il y a encore Jonas Martin qui a annoncé...
Il vient d'annoncer à Hathor directement son agent.
Ouais. Je viens de mettre mon veto sur le départ de Martin.
Il a signé à Lorient.
Mais le risque, c'est la catastrophe, c'est pas... on se fait sortir jeudi en Coupe d'Europe. On perd Martin.
Et Lala.
On perd Lala. Bah, et on recrute pas grand-chose derrière.
J'y crois.
Bah si on perd là, on aura de quoi recruter.
Même ouais, mais qu'on arrivera.
Il faut avoir le
oui, mais on arrivera.
Moi, je suis pas certain que là partira. Hein. Moi, je pense que s'il y avait déjà eu un moyen, une possibilité qu'il parte, il serait parti. Moi, je pense que.
De toute façon, alors Jonas Martin, je pense qu'on peut, conclure le cas de Jonas Martin. Marc Keller a dit Jonas Martin est au club.
Ouais,
je pense que le club est prêt à ne pas prendre de pognon à la fin de son contrat pour le garder cette saison.
Ouais. Clairement, oui. Moi, je le vois pas.
Ça me paraît logique d'ailleurs.
Et ça m'étonne. Là, pour le coup, on aura du mal à trouver un remplaçant équivalent à Martin, surtout sans Coupe de
Rente.
Au 31 août. Au 2 septembre même.
Donc là, c'est plus ou moins réglé. Alors maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'il va traîner ça comme un boulet sans dire que le joueur, ça sera pas Michael Pagis 12 ans après.
Je pense pas que c'est le genre. Hein.
Mais est-ce que ça joue pas psychologiquement sur des joueurs?
Alors moi, je pense que si, hein, ça le risque. Hein. C'est qu'après, moi je pense que ça peut arriver. Hein. Ah, qu'il soit pas nul, mais que t'es un Jonas Martin comme de sa première saison. Mm.
Ouais, handicapé en fait par ce départ.
Si après il veut trouver un club à la fin de son contrat, il a intérêt quand même à se bouger.
Oui, c'est.
Il y a les deux.
Ça peut être dans l'intérêt, mais si t'as le seum, comme
dans les collèges,
comme les jeunes.
Comme les Belges, voilà. Et bah voilà, même si rationnellement t'as intérêt à être bon, peut-être qu'il sera un peu moins bon.
Ouais, mais c'est là où le Racing doit bien jouer le coup en le prolongeant quand.
Mais on veut le prolonger, la proposition sur la table.
Ça risque de faire le même schéma que Lala. On arrive à le prolonger, mais après ça bouge pas.
Bah Lala, d'ailleurs, c'était aussi un peu le.
Très bonne transition, Kittel, ouais. Puisque maintenant Martin s'est plus ou moins évacué. On en reparlera certainement nombreuses fois au cours de l'année, puisque c'est un peu le métronome de l'équipe. Et maintenant, alors Kenny Lala, alors là, le grand départ, la grande évasion, la vache et le prisonnier, je sais pas, c'est...
L'Arlésienne, son départ.
L'Arlésienne, il est annoncé partant depuis qu'il arrive, depuis ses 6 premiers bons mois, mais il est toujours là.
Oui.
Est-ce que le temps joue pour lui? Je suis pas sûr, en fait.
Bah, le mercato anglais est déjà fini, le mercato italien vient de finir, il reste plus beaucoup de portes de sortie pour lui, hein.
Oui, là, je pense qu'il a deux handicaps. Le premier, c'est son poste. Je pense que les arrières droits, ça fait pas bander outre mesure. Hein. C'est pas le neuf qui met.
Ouais,
mais c'est pas le neuf qui met 30 buts. Tu vois ce que je veux dire, la perle rare et tout.
Il y a son âge à la limite.
Et son âge, voilà. Moi, je pense qu'effectivement.
Sur son poste, c'est le fait aussi de jouer latéral droit dans un schéma 5 derrière.
Ouais, mais tu parles d'un arrière droit à 28 ans, quoi, déjà. Tu parles pas d'un avançant.
Oui, bien sûr.
Il a mis 30 buts les deux dernières saisons, quoi.
Mais combien de buts il a provoqué soit directement, soit indirectement.
Là, honnêtement, t'as vu comme il défend, franchement. Un mec qui vaut 15 millions,
pour
qui
moi, défend comme ça. Pour moi, le meneur de jeu du Racing l'année dernière, c'était Lala, même s'il était côté droit. C'est de lui que partaient toutes les offensives. C'est lui qui initiait toutes les attaques. On a fait une aussi bonne saison, c'est parce que Lala était stratosphérique.
Et à quand on remonte les derniers bons matchs de Lala?
Je suis d'accord que ça remonte.
Oui, il a été blessé aussi.
Marseille? Contre Marseille, match retour là où il marque d'ailleurs. Oui. Il fait un bon match là, mais.
C'est tous des matchs qu'on a oubliés en plus.
Les rageux diront que c'était Marseille en face.
Après, ce qui est vrai, c'est que je pense que Racing voulait penser le vendre assez rapidement.
Pour acheter.
Et derrière, enchaîner son mercato.
Comme
Aoulou, ça avait déclenché une seconde phase de mercato où tu avais recruté du Mitrovic, du Cels, des joueurs assez coûteux. Et là, finalement, on était bloqué parce qu'on n'avait plus de.
Parce que les mecs ont vu à Ozu cette saison, c'est ça.
J'ai pensé à un truc, il y avait Bale il y a 16 ans. 16 ans, oui. Attention, coup de vieux. C'est quand il va à Marseille, Bale, et après on prend Peña et Le Pen.
Ah oui. Le Pen et Ipswich.
Et Ismaël aussi, je crois, un peu en fin de mercato.
Et en fin de parcours.
Sinon, tu pouvais citer aussi l'intersaison 2001 où on vend le Windoula en fin de mercato et on prend Pierre Laurent.
Ah oui, voilà. Par exemple. attention aux futurs recrues.
T'as la vente de Niang et on prend.
Une semaine près, on avait Bakary Koné. Mais l'attaquant,
pas le général Bako.
Pas le général Bako.
Voilà. Donc le Racing handicapé par cette non-vente de Lala, l'affaire Lala qui est un peu genre peut-être le Racing traîne comme un boulet autant que le joueur.
Un stand-by qui est embêtant, ouais, parce que pour le joueur on sait pas trop où il en est. Donc il y a toujours un peu cette tentation de dire quand Lala il fait ses trucs spéciaux où il rentre vers le terrain, ensuite il fait une passe en arrière ou bien il fait
et il fait une gauche.
Voilà, il dézone, ensuite il marche, il se replace pas. voilà, il suffit de rien pour dire yo, il est déjà plus là et tout ça.
T'es ailleurs.
Voilà, mais c'est dommage parce que ce mec, il est.
Alors qu'il a toujours fait ça.
Il l'a toujours,
il a toujours fait ça.
Déjà, même quand il était bon, il
finissait déjà ailier.
Il l'a toujours fait. Mais même en faisant ça, c'était quand même l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Donc là, c'est.
Mais après, ça l'est toujours.
Ce qui est sûr, c'est qu'il a un côté nonchalant. Oh là là. Ah après, oui, c'est un peu son. Mais après, c'est aussi son style de jeu.
N'importe quel recruteur. Alors, même en étant temps passé à la buvette, il remarque ça.
Mais moi, je trouve que c'est. Je finis juste sur ça. C'est le...
Tu me finis ou
Je te finis après. Mais je veux dire, le 3-5-2, il est adapté pour lui.
On l'a fait pour lui.
Ah ouais,
il l'a fait conçu pour lui.
Ouais, mais tu regardes, en Europe, ça joue moins
3-5-2. Si, si, c'est la mode.
En Italie, oui, mais en Italie, ils n'ont pas de bif.
Mais en Allemagne, aussi.
Ouais, je pense
qu'Adolf joue en 3-5-2. Hein.
Adolf, il pourrait prendre.
Ouais. Adolf Hage joue en 3-5-2. Ouais.
Ce club, là, il vise quand même le Bayern ou Dortmund. Je suis pas en 3-5-2.
Ce que je voulais dire, parler de qui là ?
Kenny Lala.
Kenny Lala. Hyper calme là, souvent des ballons dangereux. Dans ses 30-40 mètres, j'ai l'impression que ça arrivait moins avant. Alors peut-être parce qu'il a été en pleine bourre, qu'il a un peu de réussite. Ça passait pas loin, ouais. C'est vrai que... mais là, il y a quand même plusieurs fois où là, il est rentré dimanche, au 18 après, il perd un ballon, il n'y a pas grand monde derrière lui. Donc là, il y a des prises de risque aussi sur lesquelles il n'était pas sanctionné, et maintenant ça commence.
On en revient aussi un peu à ce qu'on disait avant, l'effet pervers du mercato sur les performances de certains joueurs. Enfin, typiquement, Lala et Martin, c'est des joueurs qui ne sont pas à 100% parce qu'ils sont perturbés par... Donc là, ce qu'on dit autour d'eux.
Ce qu'on peut souhaiter en fait, c'est que le 2 septembre passe.
Ils sont toujours là.
Qu'ils fassent rapidement le deuil
de leur amour
de leur non transfert,
leur amour de vacances et
et après qu'ils se remettent à voilà.
Non mais la colo à Rennes de toute façon.
Tu la verras plus jamais.
Sachant qu'une qualification pour l'Europa League aiderait grandement à passer à autre chose.
Ah oui, ça aide à faire passer la pilule.
S'il y a une étudiante étrangère qui arrive dans la classe, ça peut tout
Et après, dans le sens des arrivées, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bison futé, voire rouge, quoi qu'il arrive. Mais ça dépend. Après, c'est plus le standing des recrues, voire le nombre de recrues qui dépendra du match de Francfort. Et on sera fixé. Donc le match est le 29. Vendredi, on sera fixé. Je pense qu'on aura déjà les premières rumeurs de transfert avec des contacts qui sont déjà
dans
établis
la nuit,
aujourd'hui.
Godin qui passera le résumé du match à sa Barbara Schuster.
Voilà,
c'est fini Barbara Schuster. Il faut l'annoncer aussi, ça, au niveau du mercato.
Oui.
Barbara, c'est fini pour le football.
Ouais.
Et elle arrête normalement au premier, je crois. C'est ce qu'on m'a dit.
Elle arrête, je ne sais pas quand.
C'est son jubilé.
C'est peut-être Francfort, ça sera son jubilé.
On verra si un joueur commente son but, il enlèvera
le maillot.
Il y a
une nouvelle journaliste, je crois qu'elle est France Bleu. Enfin bref,
on en verra, on discutera. Et ouais, du coup, je pense que le papy de Godin est presque déjà prêt. Mais en tout cas, oui, le recrutement va s'accélérer après Francfort, selon le résultat. Et,
ça sera mettre en tête de gondole de l'article. Hein. Le recrutement va s'accélérer.
À mettre dans tous les panneaux jaunes, dans les tabacs à l'extérieur, pour faire rentrer le mec.
Ouais, ça nécessite presque un radio shtoub la semaine prochaine. Hein. Si, ça se passe bien jeudi. Hein.
Mais Loré l'a même annoncé. Enfin, il a dit.
Radio-Shtoub dans le bus.
Loré a annoncé, il a dit si on se qualifie, il y aura un, voire deux, au moins une recrue. Et même en cas d'élimination, il souhaite un renfort.
Mais il a aussi dit, et là je fais ma transition, c'est le moment. Il a aussi dit on peut tout à fait jouer la saison avec ce groupe.
Oui, mais il espère quand même une recrue.
Mais alors, est-ce que c'est peut-être pas le moment de dire. Loret
démission. Loret démission.
Ah, on le gardait sous le coude depuis le début. Hein. Attends, vous voulez commencer par ça directement. Ça Thierry Loret.
Attends, on a gros.
j'ai même, je crois, un truc genre c'est Thierry Loret la saison de trop, je crois. Hein. C'est quelque part. Aligné Thomasson.
Gilbert
Grèce. Pas ça.
Question de Gilbert.
Question de Gilbert. Est-ce qu'il faut virer Loret tout de suite
avant le 10e match de la saison.
Voilà, où c'était Julien Aguester qui disait à quoi faut-il s'attendre après la saison de trop. Comme toutes les saisons. Alors, Thierry Loret est en fin de contrat en juin 2020.
C'est ça, c'est la dernière saison de contrat.
Est-ce que lui non plus n'a pas la tête à ses amours de jeunesse Et se voit-il ailleurs qu'à Route du Polygone ou je ne sais pas, maintenant il a déménagé
hein. Il était rue Cédillo, de rue Cédillo. Il n'y habite
plus. À la maison des associations.
Et non, mais après, je voulais en parler, mais c'est plus une vision un peu plus large que simplement l'actualité d'aujourd'hui. On parlait par exemple du schéma en 3-5-2 sur lequel Loré s'obstine un peu actuellement, pas depuis 6 mois.
Frilosité.
Et on parlait de ce changement de paradigme un peu entre les premières années de Loré, les deux premières années de Loré, où il revendiquait le fait de vouloir marquer un but de plus que l'adversaire, peu importe si on en prenait 3.
Le furlanisme, comme on l'a dit.
Un peu le furlanisme, le bielsisme. Et aujourd'hui. C'est
très engageant, hein, c'est ce truc-là.
Ah non, moi je suis bielsiste, mais oui, passons. Bah... Aujourd'hui, tu as l'impression qu'il est un peu plus calculateur, qu'il essaye vraiment de plus de bétonner, d'être plus frileux dans l'approche.
Le choréisme,
le girardisme, ce que vous voulez.
Le stonislandisme.
Et ouais, est-ce qu'on n'arrive pas un peu à un plafond de verre pour Loré? Est-ce qu'on peut encore progresser sportivement avec Thierry Loré? Ou est-ce qu'il faut aller changer un peu et renouveler le gestion sportive?
Inversons la question, comme tu sais si bien faire. Est-ce que Thierry Loré n'a pas atteint son plafond avec le Racing de Strasbourg? Il ne faut pas sortir de la chrysalide pour éclore.
Et j'en profite aussi pour ajouter quelque chose, parce que ça m'y fait penser. L'interview qu'il donnait à je ne sais plus quel média.
Schneider. Non.
Non, c'était un petit média strasbourgeois. Hors quelque chose, hors norme. Le lien était sur leur revue de presse. Et il disait qu'il privilégiait plutôt le recrutement de joueurs de Ligue 1 qui connaissaient la Ligue 1. Alors ça, c'est vraiment le classique des entraîneurs typiques français, de ne pas vouloir s'ouvrir
c'est
un peu.
Casus belli pour Hathor.
Oui, c'est ça. Non, mais le fait de ne pas vouloir recruter des joueurs, entre guillemets, un peu exotiques, typiquement comme Reims l'a fait, recruter Zenelli aux Pays-Bas, qui ne parle pas français forcément, mais qui leur apportait un plus tout de suite.
Motiba, c'est
la Motiba par les Français. Non, mais on a recruté que des joueurs francophones.
On prend les mecs qui sont déjà adaptés.
Et Loré, je
minimisais les risques aussi.
Loré, je sais qu'il, par exemple, il a refusé des joueurs non francophones cet été.
Mais on avait déjà évoqué espèce de barrière de la langue que Thierry Loré semblait avoir. Je pense que même à la Fédé, on lui a posé la question, a été posée, il a nié.
Il a répondu un peu à côté. Je crois que c'était moi qui lui ai posé la question.
Il a répondu en alsacien, d'ailleurs.
Même Keller à l'époque disait on avait misé sur les joueurs un peu exotiques, Agui Boca ou le Farnerud.
Oui, mais
la piste de travail.
Oui, mais ça c'est un peu facile de dire. Après, on les prend pas parce qu'on a recruté des mauvais à l'époque.
Ouais, moi, c'est pour prendre des Abou Moslem qui vont pisser en plein match. Et voilà, c'est anti-le ref. Hein.
Non, mais ça c'est un peu facile de dire ça. Alors, on peut trouver des mauvais qui parlent pas français, on peut trouver des très bons qui parlent pas français. Hein.
Mais ça reste.
Faut pas que la langue soit une limite. Hein.
Non. Mais il n'y a pas que la langue après, il y a la tactique, il y a tout, ça rentre totalement en ligne de compte.
Oui, déjà Dimitri Guénard en exotique,
qui a des limites. Donc démission pour toi.
Fin de contrat et on...
Thierry Loré.
On tente quelque chose.
C'est vrai que là, il aura fait 3 ans.
4.
Déjà, c'est ouf. Moi, je préfère qu'on se quitte bon copain. Non mais c'est vrai, ça serait sympa que la saison se termine bien, enfin si par que la saison se termine bien, et que quand il reviendra en 2 ans, il aura une grosse ovation, tout le monde sera content, plutôt que qu'on fasse une saison de trop derrière. Maintenant, pour l'instant, il fait globalement.
Si Montpellier va tout.
Il fait globalement quand même un sans faute, hein, Thierry Loré quasiment.
Sinon on le fait comme Monaco, on le rappelle dans 6 mois, quoi.
Alors. Ouais. Non mais il fait du bon boulot aujourd'hui. Mais est-ce que à court, moyen terme. Est-ce qu'il n'est pas arrivé au bout? Est-ce qu'il n'est pas déjà là au taquet de ses possibilités au Racing?
Est-ce que le Racing aussi lui-même n'est pas au taquet de ses possibilités? Bon, ça c'est mon instant parano. De son modèle actuel.
L'instant Captain Flirt.
Voilà. Est-ce qu'on n'est pas au maximum puisqu'on fait les poches des gens et tout ça? Et
C'est une question profonde.
On n'a plus de marge vraiment.
Sur le mercato, enfin, est-ce qu'on peut arriver à passer. C'est évident, il n'y a pas de pognon. Quoi.
Oui.
S'il y avait eu du pognon, Laurent, il aurait eu 3-4 recrues. Il ne serait pas de recrues. Il ne serait pas obligé de dire ouais, mais on va bricoler avec l'équipe, c'est bon, on arrive. On lui aurait dit tiens.
Est-ce qu'on peut avoir une marge de manœuvre avant l'augmentation du stade?
C'est forcément la rénovation.
Oui, la rénovation conditionnelle.
Sachant qu'on est aussi. Je ne dirais pas que c'est à l'arrêt, mais c'est un peu. Un peu aussi lent que le GCO.
Ah non, ça avance.
Ça, il y a 15 ans. Quoi.
Ça avance.
Tu te dis, voilà, il y a encore peut-être un recours, il y a les A10 qui arrivent.
Mais non.
Non, ils sont partis, les A10.
Ah, non,
les
oui, ils ont été chassés. Non, mais ça. Voilà, il y a des 12 phases de concertation, de préparation, de je sais pas quoi. Il n'y a pas eu la moindre esquisse qui pourrait nous faire rêver. Même si elle est basée sur rien.
On en parlera après.
Voilà, qu'est-ce qui arrivera en premier, la salle de la CIG ou le.
Ouais, c'est un peu la
méno.
C'est la course des escargots.
La méno arrivera.
La méno est censée arriver avant ?
Oui.
Non, mais non, censée, non.
Non.
Elle arrivera.
Elle n'était pas censée, mais elle arrivera.
L'Arena de la SIG était censée arriver plus vite, mais il y a eu aussi des.
Mais l'Arena de la SIG.
Dysfonctionnements.
C'est comme le tram, hein, c'est censé
être. Dysfonctionnement
du. 2004, en 2005.
Le forum.
Le CMDP forum, il est encore en.
Les dysfonctionnements dus plutôt à la SIG. Mais bon, ça, on s'égare.
Non, mais en plus, clairement, au niveau des droits à télé, le Racing est encore largement à la traîne. Parce qu'on voit qu'il y a même une équipe minable comme Nîmes a plus de pognon que nous alors qu'ils ont fini juste devant. Mmh. C'est inadmissible.
Mais oui, typiquement, parlons des droits à télé. L'an prochain, on aura une hausse assez spectaculaire des droits
si
télé.
Si la chaîne
si on se maintient.
Ne claque pas.
Si la chaîne ne claque pas.
Oui, aussi.
Après, on peut peut-être pas reprocher à Marc Heller de ne pas dépenser l'argent qu'il pense avoir à la fin de l'année prochaine. Mmh.
Effectivement.
Thierry Lauré, c'est
un peu mon opinion, mais c'est quelque chose qu'il faudra voir en juin prochain. Est-ce qu'on prolonge Thierry Lauré pour une cinquième saison?
Est-ce qu'il veut? Moi, je pense qu'il veut pas.
Est-ce qu'il veut aussi?
Moi, je pense qu'il veut pas. J'ai déjà dit qu'il prolongerait pas. C'est mon oracle.
Et effectivement, comme disait Rachman, c'est mieux pour lui de partir un peu comme un prince.
Ouais.
Pour aller où, c'est toujours pareil.
Derzac sera peut-être usé, il retournera à Nantes et voilà.
Un échange avec le Racing.
Non.
Ah oui, là on va se rigoler.
Eh, vous rigolez, mais Montpellier à la Méno l'an dernier, c'était pas mal. Hein.
Ouais, c'est juste sympa.
Oui, c'est pas.
Mais bon, on en parlera plus tard, mais c'est vrai qu'après, est-ce qu'on aura mieux que Thierry Lauré? Ça, c'est pas gagné.
Oui, surtout que Furlan est bien avec ça.
C'est pas forcément un entraîneur français.
Oui, alors on n'est pas Amiens.
Malheureusement.
Ça tombe bien. Alors du coup, transition, Amiens, club de PD. L'homophobie dans les stades. Hein, j'ai eu des milliers de tweets, par contre. On ne voulait pas en parler. A toi, dit, je refuse d'en parler. L'homophobie, ouais. Ça n'a rien à faire dans les stades.
Parce que Marlène risque de quitter l'émission.
Mais j'ai eu des tweets, plusieurs tweets que je vais vous citer.
Supportrice de l'OM.
J'ai un tweet féminin. Ah. Bon, c'est de ma famille. Au
féminin.com.
Hein. Mais comment continuer, Chloé, hein, qui nous dit comment continuer à insulter ses adversaires sans être sexiste ou homophobe et ou homophobe.
Ah. Ça, c'est. Alors, je peux répondre.
Raciste.
Non mais. Non mais l'insulte, il y a plein de façons d'insulter sans tomber dans l'homophobie. Il faut faire preuve d'un tout petit peu d'imagination, mais c'est tout à fait faisable.
On peut réhabiliter le hochette l'arbitre.
Oui, tout à fait. Corrompu.
Bon, l'homophobie, du coup, se réveille depuis 2-3 semaines. Je veux dire, les insultes homophobes existent depuis très, 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 très longtemps. Hein. Mais c'est devenu homophobe depuis 2-3 semaines.
Ouais, c'est quand Roxana est allée à son premier match de foot, PSG-OM, elle a découvert que les Parisiens accueillaient les Marseillais avec ce genre d'amabilité.
Ce qui est stupéfiant.
Ouais, je n'ai jamais entendu parler. Ouais. Avant ça, c'était. Ouais.
Après, c'est pas parce que ça se fait depuis des décennies que c'est
ah
bien.
Oui, bien sûr. Pendant des années, voilà. Il y avait des
critiques. Après, pour moi, le seul truc,
c'est vrai.
Les matchs ont été interrompus la plupart du temps pour des propos qui étaient injurieux. Est-ce qu'ils étaient homophobes? Pas forcément. Donc, voilà, c'est ça le. Après, c'est sûr, dans l'absolu, ça serait mieux qu'on trouve d'autres façons de chambrer les adversaires que de les insulter.
Mais
que ça soit homophobe.
Visiblement, la Ligue arrête quand c'est des. Enfin, les matchs sont arrêtés quand c'est la Ligue.
Oui, quand ça déborde, la Ligue.
Les Messins sont des.
Alors qu'à Strasbourg, ça fait des années qu'on chante les Messins sont des cochons.
Voilà.
un truc qui n'est ni injurieux, ni
c'est rien. C'est très propre, voilà. C'est méchant pour les cochons.
Ouais, c'est transgenre un peu, hein, parce qu'on a même.
C'est zoophile.
Voilà, mais ça, on a le droit. Ouais, mais effectivement, le premier chant qui a été interrompu, c'était les médecins sont des PD, qui a été enchaîné sur. Bah, on peut le dire, hein, de toute façon, maintenant c'est marqué partout, même dans le monde, c'est étalé. Genre, donc,
de toute façon, on est sur RMC, on peut tout dire. Hein.
Et qui a été poursuivi par la Ligue on t'encule. Mais je crois qu'en fait, on n'a jamais autant entendu d'insultes homophobes que depuis qu'on dit aux gens attention,
ouvrez les oreilles.
Attention, si vous faites les cons, on va vous taper sur les doigts. Et puis en plus, on va en parler à la télé. C'est un peu
c'est comme un enfant.
C'est comme un enfant, exactement. Ouais, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que les enfants font quand on leur dit. Enfin, je sais pas, Rachma est un spécialiste.
Ne fais pas ça.
Rachma, c'est un spécialiste de tout ça.
Votre puériculteur.
Voilà, la réaction puérile, c'est de faire les conneries.
C'est ça, on veut transgresser.
Voilà, on transgresse. Moi, comme je disais, à la méno, quand les gens ont cru que la pause fraîcheur était une pause.
Une homopause.
Une homopause, j'ai senti les chants redoubler au début. Les gens étaient là, oui. Disant, on n'a pas le droit de dire.
Et le pire, c'est que ces chants-là ne sont pas lancés par les. C'est un chant qui part spontanément.
C'est pas fait par le capot qui
dit pas,
on va chanter donc, ça. Et donc parfois t'as, des latérales aussi.
Donc t'as assez peu de poids. Tu peux effectivement. Si Chonchon il lance un chant, voilà, une saloperie, tu peux lui dire, vas-y, toi tu as la confiance du public, c'est de ta faute. Mais quand c'est un truc qui part de façon un peu spontanée, alors c'est pour ça que interrompre, pourquoi pas. On va voir si ça fonctionne. Hein.
Ça n'a pas l'air très efficace. Bon,
je tiens le truc, hein, quand une équipe va être dépassée, tout le monde va chanter ça et puis il va s'arrêter.
Ah oui, sinon, en fin de championnat, quand il y a deux équipes qui sont au coude à coude au classement, les supporters de l'un vont aller chez l'autre et chanter la Ligue en t'encule et c'est réglé.
Après, c'est match perdu. C'est du même tonneau de Noël Le Graët qui dit plus aucun match ne jouera, si un fumigène, les matchs seront arrêtés.
Ouais.
Un an après. Il y a eu plus de fumigènes cette saison-là, parce que les gens se sont dit, si on n'a pas le droit, on va le faire. En plus, ils se sont rendus compte que la Ligue, c'est quelqu'un qui a marqué, alors c'est Stubb ou Twitter, qui a dit que la base de l'autorité, c'est de ne pas menacer quand on ne peut pas appliquer des sanctions. Là, on est vraiment dans.
On va voir, parce que là, tout ça va passer en septembre en commission. Donc on va voir de quoi ça va.
Ce qui serait ridicule, c'est qu'il y ait des milliers d'euros d'amende de nouveau pour les clubs, parce que là, ça ferait vraiment racket.
Et ça peut s'attaquer au tribunal administratif après.
Mais après, moi,
mais un bon avocat.
Oui.
Ça ne me dérangerait pas qu'on dise on veut lutter, il y en a marre des propos injurieux dans les stades. Pourquoi pas ? C'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'insultes.
Oui.
Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on a placé ça sur le terrain de l'homophobie, alors que la plupart du temps, en fait, c'en est pas vraiment.
Oui.
C'en est pas du tout quand tu. En fait, quand certains fans chantent la Ligue on t'encule, en quoi c'est homophobe ? C'est difficile. Hein.
Oui,
devant un tribunal, ça d'ailleurs. Alors, je renvoie à l'intervention de Pierre Barthélémy que j'ai vu sur CNews là.
Tout à fait, il dit.
Qui disait qu'a priori, d'un point de vue pénal, ça, quand on dit la Ligue on t'encule, ça semble très compliqué de prouver que c'est homophobe. Que c'est,
surtout que ça. Voilà. Le terme enculé, ça a perdu quand même de son sens original. Enfin, c'est presque devenu une insulte, mais comme.
Compliment à Marseille.
Mais c'est presque la ponctuation à Marseille. Et ça se dit même des fois pour féliciter l'autre. Il a gagné l'auto, l'enculé.
Mais c'est curieux que tu en parles maintenant pour quelque chose là où j'en reviens à ce que je disais. Que tu en parles maintenant, effectivement, qu'on en parle depuis le début et qu'on veuille gicler la violence dans les stades, pourquoi pas.
Mais c'est vrai que tu peux, si tu veux chambrer l'adversaire, dans l'absolu, tu pourrais trouver une autre façon de le dire que de dire on t'encule.
Oui, c'est clair.
Ou pareil, tu dis la Ligue, ce qu'on leur, quand on n'est pas content avec ce qu'ils font.
Mais là, ça choque maintenant, alors que je veux dire
Et alors, l'excision, ça choquait pas il y a 50 ans, et tout d'un coup, tu vois.
Non, mais c'est pas pareil.
Je sais, c'est pas parce que pendant 30 ans, on s'est reconnu dans pratique que ça pose pas problème.
Oui!
Mais moi, d'ailleurs, il y a plein de gens, le jour où ils ont des gamins, ils arrivent, ils disent, purée, mince, ça m'embête quand même.
J'hésite à les emmener au stade.
Ça m'emmène au stade parce qu'il y a de temps en temps, il y aura peut-être un bidule en tant que qui n'est pas du tout pensé en fait, mais qui veut juste dire, on vous aime pas quoi. Enfin,
Mais du coup, je trouvais ça beaucoup plus honnête de s'attaquer aux insultes dès dans les stades, comme tu dis, que subitement cette insulte d'enculé, de pédé, de mettre ça sur le terrain.
Bah, le pédé, si, le pédé, c'est le pédé,
oui,
c'est
coup,
difficile
oui.
De nier le compte, de dire
oui,
le
oui, certes, mais je veux dire, mais tu le penses pas.
Même si c'est pas forcément pensé par
tu vois ce que je veux dire, tu le penses pas forcément.
Mais là, c'est moins justifié.
Mais là, c'est moins justifié, je suis d'accord.
Alors, enculé, oui, c'est un autre terme.
Donc en fait c'est un appel à la créativité des supporters.
Mais tout à fait. Enfin, les Messins sont des cochons ou les Bordelais sont des blaireaux. Ouais, à Strasbourg on est innovant.
Quand on voit les vainqueurs de l'amour et de l'entre.
Non, c'est pas blaireau, je crois.
Et vous faites pitié tout comme les Bordelais.
Ah non, mais... ça c'est. Il y a pas un truc avec des blaireaux.
Vous êtes des blaireaux, des pauvres animaux.
Ah oui, c'est ça.
Ah, voilà, c'est ça.
Donc ça, on est.
Et même, on pourrait penser arbitre bordelais.
C'est ça. Et t'auras tout, alors, bientôt, tu auras tous les agriculteurs, tous les vainqueurs de l'amour et dans le pré qui crieront contre les cochons.
Non, Brigitte Bardot qui a monté au front.
Voilà.
Bah. Ah ben, bah, le front, elle connaît.
Sauf si c'est celui d'Endo.
Donc, alors, à Radio Ch'toum, on est pour, hein, pour schématiser, on est pour l'insulte. Pas l'insulte, on est pour
le
chambrage créatif,
voilà.
et classe. Mais en même temps, on n'est pas non plus convaincu par le brouhaha médiatique qui se passe en ce moment. Ça ressemble un peu. Alors, si c'est du même tonneau que, comme je disais avant, les fumigènes il y a un an, ça sera beaucoup de bruit pendant quelques matchs pour rien. Et,
voilà. Pénalty pour tirage de maillot il y a 15 ans.
Et puis là encore, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire lors d'un PSG Marseille en prime time un dimanche soir. Oui.
Ça s'est déjà vu, hein. Rennes PSG, il y a eu des chants, la Ligue
ont
entendu, ils n'ont pas arrêté.
Mais même quand il y aura des insultes entre supporters,
ah oui,
est-ce qu'ils vont arrêter
si les supporters des deux camps sont
s'enculent
tous,
le match va durer longtemps. Hein,
si tu rajoutes la VAR avec ça, t'as des arrêts de jeu de 20 minutes. Hein.
Ça fait un débrief très long.
Ou très court, c'est très bien sur Canal+. Ah
ouais, c'est bien. Mon top flop.
Donc voilà, mais bon, par contre, l'avantage c'est vrai que sur le Ch'toum ça décèle les passions. Donc,
Mais voilà, j'aimerais juste pas que ça nous tombe dessus, qu'on se prenne le. Bon, alors après, c'est plutôt tombé d'abord sur Nancy. Hein,
Oui, bah, un match de Ligue 2 ouais, dans un voilà, multiplex de vendredi soir.
C'est qu'à expulser et tout. Ouais.
Mais donc, du coup, l'autre jour à l'ENO, c'était pas ça.
Non, c'était une fausse pression. Par contre, c'est aussi tombé à Nîmes-Monaco, oui. Et ça, c'était à 17h. C'était à 15h. C'était à Monaco.
Ouais.
Le match a été arrêté parce que
parce qu'on entendait les visiteurs.
Les visiteurs chantaient ça.
À Monaco, bizarre. Hein.
Non, mais les Nîmois chantaient ça. L'arbitre a arrêté le match, a demandé au capitaine d'aller raisonner ses supporters. Et pendant l'interruption, ce sont les Monégasques qui, après, ont chanté la même chose.
Et du coup, le match a repris.
Le match a repris. Non, mais c'est... Il y aura des situations absurdes de toute façon, c'est complètement absurde de
mais je pense qu'il y a. Ça n'a pas été très réfléchi.
Oui. Ça a été sorti sur Twitter par une ministre.
Et ils se sont dit, bon, allez. Mais bon. Et puis là, Bon, alors ça commence par ainsi, mais il y a la banderole là, avec l'arbitre.
Oui.
Stéphanie Frappard.
Voilà, qui est provocatrice, mais qui n'est pas insultante.
Qui n'est pas insultante non plus.
Mais là,
c'est une question.
Voilà.
Et celle des Nantais aussi.
Sur
ta merde, c'est une insulte.
Ah, oui. Sac à merde, c'est une insulte. Ouais,
ça, c'est une reprise.
Avec une référence aux
trois frères.
Très bonne banderole.
Voilà, donc, c'était un débat intéressant. Est-ce que vous avez encore une insulte à ajouter ou on peut continuer ensuite, c'est le quiz de Calcio. Je ne sais pas si on est pas mal niveau timing.
On est à combien là? Est-ce qu'il y a encore des gens qui écoutent? Si tu veux.
On a combien de temps là?
Maestro.
1h22.
Ça sera parfait. Hein. Voilà. C'est un quiz spécial.
Et on pourra faire un petit mot sur le match autour de Francfort après le quiz.
Oui, bien sûr. Tout à fait, pronostic, analyse.
Adolphe et tout ça. Ouais.
Première question du coup.
Tu ne présentes pas.
Tout
de suite.
Excusez-moi, je croyais que c'était rentré un peu dans les mœurs.
C'est quoi le principe? Pour les gens, si tu veux des questions comme ça, rapidité.
5 questions de rapidité. Celui qui a le plus de points. À une vie pour le survivor.
Il faut expliquer pour les gens qui nous écoutent pour la première
fois. C'est vrai.
Alors, et donc, c'est un peu sur le principe du quiz qui sera à la Fédé le 7 septembre.
Le 7, ouais, co-organisé notamment par Virtual qui est à l'origine de la première question et qui donc co-organise le quiz. Ouais, que l'on salue. Donc, première question qui nous vient de lui. Endur a été le dernier joueur du Racing expulsé dimanche. Qui était le l'avant-dernier, du coup, hein, avant lui, à la Meno. C'est de rapidité, hein, si jamais.
On n'a pas dégainé.
Mitrovic,
hein. Non.
Mais c'était pas à la Meno.
Si, c'était à la Meno, mais il y a plus récent.
Ah, il y a plus récent.
Il y aura certaines questions qui seront plus faciles, hein, ouais. 7 septembre. Hein.
Non, mais tu ne veux pas décourager.
On est fatigué. Là.
Non, en plus, je n'ai pas souvenir. Parce que généralement, je chante Auf Wiedersehen pour les supporters, oui. Pour les, pour les adversaires. Donc,
Connais ?
Non.
J'avais envie de tenter Connais. Mais...
Martin ?
Martinez ?
Non, non. Ah, bah, désolé.
Hein, on va déjà offrir. On a droit à combien de réponses ?
Autant que tu veux. Mais bon.
Tu vas faire tous les
fécaux. Sinon, c'est Fofana ?
Non.
Carole ?
Non.
Thomasson ?
Thomasson, bonne réponse. Contre
ah France. Oui,
il était
rentré,
il s'est fait expulser.
Ouais. Bien joué.
Ah ouais, mais bon, on avait gagné 4-0, donc c'est bon.
On va faire un petit flashback sur notre dernière saison en Coupe d'Europe.
Ah, ça c'est la, une très belle saison.
La bonne saison, la vraie saison, ouais. 2005-2006. Qui avait fini meilleur buteur de cette saison ?
Le Pen.
Diané, bonne réponse.
Ça l'a majorité, ouais.
Amara.
Lors de cette saison, donc on était tenant du titre de la Coupe de la Ligue, qui est-ce qui nous a éliminés ?
Quand ?
Ouais,
quand,
ouais, bien joué, Gigas. Au premier tour en 16e, tout de suite, 1-0.
Et la rapidité, là.
Quand intervient notre première victoire lors de cette saison ?
Nancy, en décembre.
Combien de journée ?
18.
18, un point à chacun.
C'est Guémandia qui obtient un péno, non ? Ou je dis une bêtise ?
Non, c'est là où Derov casse la jambe d'Adel.
Ouais, ouais, on rappelle surtout Derov qui casse la jambe.
Mais je crois qu'il fait même pas faute.
Il fait pas faute, il marche sur le ballon.
Et du coup, dernière question qui vaut 3 points, hein, subitement.
Tu notes les scores, là, parce que...
Ouais, Gigas a 3 points, 1 point chacun, et donc cette question vaut 4 points.
Moi, zéro.
Voilà, 4 points, du coup, cette question. Lors de Strasbourg-Bâle et de Bâle-Strasbourg, donc la double confrontation se fait éliminer.
Sur les
8e.
Sur les 8e. Il y a une triple confrontation en face de groupe, mais non, sur la double confrontation déjà. Quel joueur de Bâle a joué ensuite à Mulhouse ?
Oh merde,
Papa Ba ou je sais pas quoi.
C'est une bonne réponse. Oh, Papa Ba Luba. Et du coup,
c'est vrai, mais oui.
A une vie pour le Survivor, le mais superbe Survivor.
Son double compte, c'est virtuel.
Ouais, ça
peut. Et cache tes réponses là.
Alors le Survivor, il va être très simple. On sort en 8e de finale contre Bâle. Je voudrais l'équipe type. Donc il y a eu. Oui, enfin pas l'équipe type, l'équipe qui a joué contre Bâle.
Le retour.
Le match retour, sachant qu'il n'y a eu aucun changement, donc il y a 11 joueurs.
Merci Jackie Dubé.
Voilà, et donc je donne l'entraîneur comme 12e réponse potentielle. Ah. Et donc Gigas commence.
Jackie Dubé Pérou.
Jackie Dubé Pérou qui était entraîneur ou joueur. Allez, entraîneur. Bonne réponse. Kittel, à toi.
Cédric Canté,
bonne réponse. Cédric Canté, buteur d'ailleurs.
Rudy Carlier.
Rudy Carlier, buteur aussi. Atma.
Karim Agui.
Non. Il était encore là, Karim Agui, cette saison ?
Ah oui, il est là.
Il était là, il n'a pas joué.
Cache ta feuille.
Il n'a pas joué.
Bah, du coup, je vais dire Arthur Boca.
Arthur Boca, il a joué, bien joué.
Lacour.
Guillaume Lacour, non, Guillaume Lacour n'a pas joué ses matchs.
J'ai une vie.
T'as à peu près une vie, tu reviens.
Tout le monde a une vie parce qu'on trouve pas. Non.
Je vais dire Nicolas Puigbois.
Nicolas Puigbois, bonne réponse.
Ah, c'est Puigbois qui jouait ?
Et c'est Puigbois qui jouait.
J'allais dire Kassa.
Atma.
Gamero ?
Non, Gamero il s'est fait les croiser. Ouais, contre 3, il était fini. Hein.
Mais il avait des
marques. Il aura peut-être une vie autour d'après.
Trousseau, non ?
Contre non, contre Rouge,
c'est pas Rouge. Ouais. Petit bonhomme de 18 ans qui barre contre le
mec. Gigas.
Maintenant, j'allais dire Amara Diané.
Amara Diané, ouais. Le fameux Amara Diané.
Ah, le meilleur buteur.
Non, il n'a pas joué ses matchs.
Ça ne m'étonne pas qu'on s'est fait éliminer parce qu'on n'a aucun joueur titulaire.
Amara Diané n'a pas joué.
Du coup, je vais lancer Ricardo Fati.
Ricardo Fati, ouais. C'est une bonne réponse.
Donc forcément, il y a l'autre qui va suivre.
Ouais. Oui, bon. Après, non. T'es encore dans le jeu. Hein,
bah
jeu.
Oui.
Ouais, non, mais pour moi, les deux sont associés. Donc.
À tort.
Ouais. Bah, je vais tenter Pascal Johansen.
Pascal Johansen, bonne réponse. Gigas, je sens que tu as trouvé.
Ah non, il a éliminé.
Non, j'ai une vie.
Quand t'as une vie,
on avait tous une vie.
C'est le studio Bigus. Hein,
hein. Non, mais de toute façon, là, je n'en pique à personne.
Bon, il y en a quand même quelques-uns. Quoi. Je pense que vous les connaissez à peu près tous.
Bah, Osni, non,
Non.
Pas Osni. C'est le
studio
Bigus. C'était la bonne saison.
C'était la bonne saison.
Il a marqué dans les points
de grade. Un caramel.
Je n'ai pas demandé les mecs qui jouaient pour cette saison.
Très bon joueur.
Très bon joueur.
On ne pas l'équipe type, ceux qui ont joué ce match.
Qui ont joué ce match, oui, c'est vrai.
Moi, je pensais à Belaïd alors.
Habib Belaïd, ouais. Il a joué. Habib. Alors, il en reste 1, 2, 3, 4. Il en reste 4.
Je tente un Yacine Abdesaki.
Non. Ah. Pas du tout. Kittel.
Pour la victoire.
On va parler d'Adolphe, mais là, je dirais Le Pen.
Adolphe Le Pen. Non, il n'a pas joué Adolphe Le Pen non plus. Attard. Ah, bah, le match loupé du coup pour Kittel. Ah, il a raté son tir au but décisif.
Bon, okay. Du coup, on rejoue tous là.
C'est un peu de bordel, je comprends pas. Yves Deroff.
Yves Deroff, bonne réponse.
Rakma alors.
Rakma, vas-y. Alors, il en reste 3.
C'est n'importe
quoi. Non, mais moi, je suis sûr, je sais.
Alors, il y a un des trois a été cité dans l'émission.
Again in the game.
J'en ai un.
Si tu veux, je donne pas la réponse. Tu rejoues l'émission. Et puis,
moi, je l'ai, je crois. Ouais, je pense, j'imagine que c'est Eichel Demandia.
Avec Aguilera, non. Non, il n'a pas joué.
Abou Moslem,
effectivement. Et du coup, il en reste 2 qui sont assez connus, hein, quand même.
Ah, Johansson.
Non, il a déjà joué. Cité Attar.
Attends, si.
Non, Attar ne jouait pas.
Ouais, non, mais Sidi Keïta.
Non, non, mais.
Devaux.
Non.
Non.
Il reste pas un Farnerud.
Alex Farnerud, ouais.
Lequel?
Alex.
Alex Farnerud, bonne réponse. Et le dernier?
Pontus Farnerud.
Pontus Farnerud, c'est ça, je sais pas.
À la rapidité.
Ah bien,
du coup, c'était une équipe quand même, pour finir, Puy de Bois, Deroff, Belaïd, Kanté, Boka, Abou Moslem, Pontus Farnerud, Fatih, Alexander Farnerud, Johansen et Rudy Carlier.
Ouais, équipe peu... expérimentale.
Ouais, ben Arthur Boka jouait milieu gauche alors.
Voilà. Bon, bah, le vainqueur du quiz,
c'est, ouais, je sais pas si on a...
c'est le fair play. Le vainqueur, c'est le fair play.
Jacques Pérou, hein, qui a déjoué tous les pronostics.
Franchement, c'est vraiment une équipe de merde. Donc, du coup, effectivement, on peut revenir maintenant sur Francfort dans les 5 dernières minutes de l'émission. Il y avait peut-être un jingle 5 minutes. S'il y avait JP Darky, on aurait un truc.
On n'a rien.
On n'a rien. Ouais. Voilà. Mais on peut parler, tu as peut-être des choses sur le cœur par rapport à ce match, toi, le chantre de la Bundesliga.
Bah, Francfort, ouais, j'ai jamais fait Francfort en tant que Francfort, mais vous saurez que j'ai fait un match à Francfort en lisant ma présentation qui va paraître ces jours suivants.
Ça existe encore ça sur le YouTube, les présentations ?
Bien sûr.
Ouais, enfin c'est un mi-présentation du match. Donc,
ah d'accord.
Il faut lire les articles sur le YouTube.
Et
un mi de.
Non mais je me demande si Francfort sera vraiment. Enfin, je pense qu'ils seront ultra motivés et tout ça, mais est-ce qu'ils seront aussi, ils seront meilleurs qu'à l'aller un petit peu. Mais est-ce que ça suffira pour eux? Je sais pas. Enfin, j'espère que le Racing va tenir. Enfin, pas tenir, parce que tenir, ça voudrait dire qu'on joue à 15 derrière, et ça, c'est pas bon.
Charnière centrale, Ajork, Mitrovic, Djikou, Koné.
On va les péter 3-0.
Ça serait quoi, déjà, ce sera l'équipe, ça va être quoi, a priori?
Équipe type.
Donc, oui, c'est quoi l'équipe? Donc, c'est Cels.
Ça, oui, ça,
tu mets les trois,
Mitrovic connaît du coup.
Lala, Carole. Oh, ouais.
Martin.
Liénard, vu son très
bon début de saison.
Ouais, il a été économisé.
Ouais, il n'a pas joué.
Tu mets Liénard.
Tu mets Thomasson. Thomasson aussi
n'a pas joué. Ajork.
Zoé. Ouais,
moi je mets la même équipe que.
La même équipe qu'à l'année, ouais. Exact.
Ça a plutôt bien marché. Et on a vu quand même que Francfort avait AZB derrière le japonais. Pas forcément super rapide.
Abraham non plus.
Abraham, ouais, toujours un peu prophète.
Nul n'est prophète en ce pays.
Sachant qu'il est argentin, mais bon, avec les Allemands.
Enfin, t'avais Hinteregger dès qu'il a gratté Lala à la course. Hein. Ouais. Je croyais que c'était un bourrin autrichien.
Mais non, c'est... Hinteregger, c'est un bon joueur.
Ouais.
Il était à Augsbourg.
Et ouais, bah, y a des. Ou Fernandez, ouais, qui était un peu l'ancien René.
Alors lui, par contre, était.
Il est pas top, ouais.
Donc, ouais, là, c'est dans les mauvais coups, hein, qui chauffe vite.
Non, mais. Francfort, c'est prenable.
C'est pas un bâtard.
Ils ont quelques bonnes individualités quand même. Enfin, Rebic, c'est un super joueur, mais quand il joue pas seul dans l'axe.
Sorti à l'aller, hein, donc ça serait bien qu'il soit de nouveau sorti à l'aller.
Mais Rebic, c'est un ailier.
Il était blessé un dimanche, hein, alors je sais pas. Là, quoi,
j'ai le groupe en live. Hein.
Ah, de Francfort.
Non, de Strasbourg.
Oui, bah, 21 joueurs.
21 joueurs retenus pour aller chercher l'exploit. Avec un petit point qui est appelé.
Tu regardes pas sur le
Sels, Kawashima, Kamara, Simakan, Endur, Kone, Mitrovic, Karol, Jikula, Lamartin, Cornier, Lienard, Belgarde, Thomasson, Lebeau, Mitiba,
Zoé. Mais t'as tout le monde, quoi.
Ah, ouais, les plaisir, convivialité, fair play, bien sûr. Ça, c'est la devise du Racing. Qui seront, il y a des enfants qui.
Non, mais ils sont prenables quand même, Francfort. Enfin, ils ont quand même des failles en défense centrale. Tu disais Azebe, Abraham, c'est pas terrible. Surtout face à vitesse d'un Zoï. Au milieu de terrain, Gelson Fernandez, c'est pareil. Enfin, c'est vraiment sur la jante.
Ouais, devant, ils ont aussi.
Devant, ils ont perdu quand même. Ouais, ils ont quelques bons joueurs. Enfin, Kamada, c'est bon. Gasilovic, c'est très bon.
Bingo, Kamada.
On a la bonne recette de la Coupe d'Europe. Hein. On n'a pas pris de but à la maison. Mm. Qu'on le veuille ou non, ça reste un super avantage en bout d'un match retour.
Bah, tu marques là-bas, les autres, on va en mettre 3 pour se qualifier.
Ça reste quand même compliqué de marquer là-bas, je pense.
Après, ouais, c'est un peu cliché. Je pense que le premier quart d'heure, ça va être.
Ça va donner le ton.
Là où je suis pas d'accord, c'est qu'on travaille fort. Enfin, un bon premier quart d'heure, hein, on en plante un vite, et puis derrière, je sais pas trop ce qui se passe, mais
on achète. Ouais, relâchement.
Ah, mais là, on est un mois après, on a quand même joué pas mal de matchs depuis, donc non, c'est un peu rodé.
Ouais, je pense. Sébastien Rodin.
Sébastien Rodin.
Champion du
Stéphane
monde.
Stéphane Rodin.
Mais donc, ouais, on gagne là-bas. Moi, je le sens bien.
Une victoire.
Franchement, je le sens bien.
Tu gagnes là-bas.
Moi, je pense qu'on gagne là-bas 2-1.
On perd 2-1.
À la Glasgow, quoi.
Non, on perd là-bas.
Moi, je pense
qu'on se fait éliminer. Ouais, mais t'es défaitiste, là.
Non, mais je sais, moi, je pense qu'on va...
Fusiller.
Non, mais là, moi, je pense qu'on n'est pas terrible début de saison, et là, on va...
Mais justement, c'est là où le Racing est bon. C'est là où le Racing est bon. C'est quand ils sont pas
bons. C'est dans le pas terrible qu'on est bon.
C'est dans l'ADN du Racing.
C'est le Racing. Après, on n'a rien à perdre, hein. On n'est pas favori. Oui. On reste.
Et pour moi, la tournée européenne, elle sera réussie comme ça. Hein.
Europe
too. Il manquera quelque chose quand même. Enfin,
il manque quand même la vraie Coupe d'Europe.
Mais oui, mais tu tombes contre Francfort, tu tombes pas contre.
J'attends la Marseillaise, j'ai mon drapeau français qui est prêt.
tu perds pas contre Standard de Liège 3 jours après le 11 septembre. Ah, c'est quand même un peu plus festif.
on sait pas ce qui peut se passer demain.
Mais d'ailleurs,
c'est pas faux.
Non, mais...
On va surveiller les gratte-ciels de Francfort.
En tous les cas, il y aura 2600 supporters. Non, c'est censé être un record...
Mais ça sera, quoi qu'il arrive, ça sera un bon moment. Enfin,
voilà.
Tu viens un super match de Coupe d'Europe, un gros déplacement à l'extérieur, même si c'est pas loin. Mais...
Alors, on l'attendait peut-être que ce match-là, moi j'en rêvais, hein, un match de Coupe d'Europe loin, pas loin.
Loin.
J'aurais aimé en poule plutôt.
Oui.
Parce que bon, là, c'est dommage d'avoir ça en barrage.
Ouais, si on passe,
franchement,
si on
passe, c'est énorme quand on y pense.
Si on passe, ce sera nettement plus beau qu'un match de poule. Ah, oui. Tu vois ce que je veux dire. Après.
Ouais, ça peut vraiment être historique pour l'Italie.
Il faut se dire que le moment fort de la saison, ça sera peut-être après-demain.
C'est maintenant.
C'était pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant.
Écoute, que le reste de la saison sera peut-être.
À chier,
mais genre vraiment chiant, quoi.
Ouais.
Avec un maintien un peu ric-rac et puis. Et plus aucune émotion, tu te fais sortir des coupes assez vite, tu tapes aucun gros chez toi, et tu finis 15e, et voilà.
Bon, mais est-ce que... Tout est dit.
Non, mais ça va être un bon match à vivre, en tout cas. Enfin...
Allez-y, il reste plus de billets. C'est dommage.
Et en tribune normale, il y a Sophie, c'est sold out ou pas ?
Je crois que c'est
il y a eu une petite rumeur sur le jeté, il reste des billets, puis après, il y avait un message. Ça sera, le stade sera plein, pas comme la Mélo, on n'en a pas parlé. Non, mais...
Je pense que ça peut ne pas être plein, mais c'est dur d'avoir des billets. Apparemment, déjà, les Alsaciens ne peuvent pas acheter de billets en Allemagne.
Racisme.
Comme les Allemands ne pouvaient pas, ou je sais pas, ils ont pu quand même.
Si, je pense qu'ils pouvaient. Hein.
Si, ils pouvaient, hein, il fallait juste se
déplacer. Il fallait faire 4 heures de route. Mmh.
Ou 3 heures. Les Allemands, c'est vrai. Sur l'autobahn. Non, mais le stade sera quasiment plein, enfin, il y aura une grosse ambiance.
Ouais, apparemment, tout en noir.
Après, c'est sûr que les 20 ou 30 premières minutes, voilà, si on est déjà mené 2-0 à la 20e, ça sera. Okay. Voilà.
Bah, si on est mené 2-0, on en met un, on est qualifié.
C'est vrai, ta plus grosse influence du Racing, stade.
Prendre 2-0 tout de suite, c'est peut-être encore un meilleur plan que de marquer d'entrée. Hein. Ça, c'est l'entourloupe qui pendait souvent au nez du Racing. C'est-à-dire, tu es qualifié, mais en fait, la moindre erreur.
T'as la merci de l'adversaire.
C'est pas très agréable.
Il faut juste pas faire rentrer Lebeau et Zemzemi alors.
Zemzemi n'est pas dans le groupe, je crois.
Non. Si. Dans le groupe élargi, il y est.
Je suis pas sûr.
Il n'y est pas. Il y a Lebeau et Botella.
Il a été déséélargi.
Par contre, s'il fait rentrer Botella, on gagne. C'était, il est pas là.
Mais Otella était dans un groupe, non
bah, contre Rennes, Rennes était sur le banc.
Ouais, mais je crois qu'en Coupe d'Europe, il est pas. Non. Ah non, il était dans un groupe élargi.
Groupe élargi, ouais.
Bon.
Voilà. En tout cas, je pense qu'on a atteint l'heure et demie de jeu.
Les pronostics, t'as pas fait les pronos. Hein.
Ah oui, allez bien, alors un tour de pronos et puis on pourra fermer.
Ouais. Allez, 2-0 Francfort.
2-1 Racing. 2-1 Racing doublé de Zoe.
2-1 Francfort.
J'étais aussi à 2-1 Francfort. Ah, je vais changer deux partout alors. On est mené 2-0 et puis on sort les doigts du cul en demi-temps et but d'Ajorque et de Da Costa.
2-1 Francfort, doublé de Zoe.
Avec une fin de match et avec un Matzels héroïque à la Alexander Wenzel
à Liverpool. Et il remet sa casquette.
Ouais. Oui, ouais, ça, on a, bien sûr, Matzels, qui tous les jours, on n'en a pas parlé, mais casquette, arrêt, ça devient l'idole de la vidéo.
Jogging à Francfort, il joue en jogging à Francfort.
S'il joue en jogging à Francfort, on ne peut pas perdre. Matz, si tu nous écoutes. Voilà, bah, je pense que... Allez Racing, hein.
Voilà. Ouais. Allez Racing. Merci.